Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Il paraît que vous aimez bien les digressions.
Vous voulez vraiment m'humilier dans ce podcast?
J'ai le droit d'avoir des beaux cheveux, merde.
C'est vrai que t'as des beaux cheveux.
C'est vrai que t'as des beaux cheveux.
T'es jamais les pieds à l'air.
Mais ce que je voulais vous dire, c'est juste buvez de l'eau. Hein.
Si vous pensez que je l'ai jamais fait, vous vous trompez beaucoup.
Je vais te parler comme ça dorénavant.
Oh, c'est condescendant.
Personne te fait chier si on est dans un safe space.
Non.
It's drums time, bitch.
Je pleure.
N'arrêtez pas d'écouter la sonkey.
Jamais, n'arrêtez jamais.
Mais ne vous disputez pas, vous êtes d'accord, vous dites la même chose.
Ah bon? Quoi? Hein?
Il y a un générique?
Bonjour, bonsoir.
Vous voyez quand vous voulez.
Quoi, on n'a pas crié trop fort?
Mais non, mais on prend pas le réflexe de crier à distance alors que Pascal Obispo, par exemple.
C'est déjà un épisode dont j'ai envie de partir. J'ai même pas dit le numéro de quel LMKC et tu parles de Pascal Obispo.
Mais oui, mais il recule le micro parce que des fois il mange le micro dans un moment un peu intense, je suis sûr tout ça, et après il crie et il fait comme ça.
D'accord.
C'est fascinant le mic work des artistes. Ouais. Après, tu sais, qui le déplacent à gauche, à droite, qui savent qu'ils peuvent faire des vibratos en faisant ci ou ça.
Les gens vivent un moment immersif incroyable. Parce que du coup, j'entends dans le casque ta voix qui fait ah.
Oh, j'espère que vous écoutez, laisse-moi kiffer en binaural.
Bah, il faudrait des micros binauraux pour ça.
Non, ça marche un peu en stéréo. Bref, je fais du podcast dans la vie, ce n'est pas grave que je n'ai pas cette information. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, épisode numéro 210. Un des premiers épisodes de cet automne 2022 que nous avons, et par nous, je veux dire moi, mais aussi Swafia, c'est le 211
à ce
Le
stade...
dernier, j'ai dit 209-ish parce qu'on était sur des... Bah, attends, je vais te dire, c'est lequel le dernier qui est sorti?
Alors, oui, mais alors...
celui-ci, il va sortir.
Parce que celui-là, il ne va pas sortir jeudi, là.
Ah, il sort jeudi d'après?
Si possible, potentiellement
si possible,
en novembre.
C'est toi qui gères, hein, chaton. C'est très bien.
I know.
Bienvenue dans ce Laisse-moi kiffer numéro 200, inséré ici le bon numéro, mais probablement 10 ou 11. Je suis Mimi Hegel, je suis toujours animatrice de Laisse-moi kiffer, entre autres contenus que je participe à créer sur les internets. Et je suis entourée, peut-être de mon équipe préférée, mais il ne faut pas le dire, je suis entourée d'une équipe qui n'a pas été réunie depuis ma foi trop longtemps à mon goût.
C'est
alors
vrai.
Vu qu'on n'a pas tout publié dans l'ordre, peut-être que pour vous ça fait moins longtemps. Mais pour moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas été avec Mathis, Aïda et Anthony. Hi la team.
Welcome back.
Hello.
Du coup, je disais que c'est un des premiers épisodes de cet automne 2022, ce qui est toujours vrai si on le sort une semaine après, puisqu'on est toujours dans le début de l'automne. Automne que j'ai bien sûr appelé de mes voeux, tout comme Swafia, qui était dans un épisode récent de Laisse-moi kiffer. Et j'ai eu beaucoup, d'ailleurs, de retours sur l'amour de l'automne. Donc, merci à la team automne d'être là tous les ans, puisque tous les ans dans Laisse-moi kiffer, on fait des big up à l'automne. Et tous les ans, nous sommes légion à nous ravir d'arrêter de suer. J'ai une question du coup de circonstances pour vous, de circonstances et surtout météorologiquement pertinentes, puisque j'ai réussi à esquiver deux averses de flotte en venant. Nous sommes exceptionnellement, vous vous en foutez, mais je vous le dis, chers auditeurs et auditrices, un lundi et non pas un jeudi. Du coup, j'ai envie de vous demander, c'est un peu différent d'un dimanche pluvieux, quel lundi soir pluvieux êtes-vous? C'est quoi votre soirée idéale pour aujourd'hui? C'est lundi, vous avez a priori taffé toute la journée, il pleut. Qu'est-ce que vous faites de votre soirée, Mathis?
Bah, moi déjà, j'ai grandi en Normandie. Après,
ah oui,
j'ai vécu.
Pour toi, c'est un lundi, quoi.
Bah ouais, enfin.
J'avoue, moi, j'ai du sud-est, tu vois. Toi, t'es là. Ah, donc, quelle est l'alternative à un lundi soir pluvieux?
Après, je suis parti.
Un lundi soir brumeux.
Non, mais après, je suis parti à Lyon et j'ai vu les gens courir quand il pleuvait. Et j'étais. Qu'est-ce qui se passe?
Oui,
et
moi, plus on va au sud, plus les gens sont composés de sucre. Du coup, ils fondent quand il pleut.
Moi, j'ai regardé derrière eux, je me disais, ils se font poursuivre ou un truc comme ça, je sais pas.
Quoi? Il y a un ennemi, il y a un mec dangereux.
Et en fait, non, il pleut. Et après, j'étais à Londres, donc j'ai repris l'habitude. Et donc voilà. Tout ça pour dire que du coup, la pluie ne contrarie que très peu mes plans finalement. Du coup, je serai un lundi. Un truc que j'aime bien, c'est que la pluie, ça fout tout le monde à la même enseigne, en fait. Je trouve que du coup, on est tous dans le même panier. Et donc, j'aime bien, je sais pas, par exemple, un lundi où je vais au théâtre. Et du coup, on arrive et on est tous dégueux.
Cette réponse tellement Mathis Core. Un lundi où je vais au théâtre.
Oui. Mais non, bah, on est tous dégueux parce que finalement, que t'es payé ton billet catégorie A, carré or, tout ce que tu veux, bon bah...
Oui, tout le monde sent un peu le chien mouillé, personne n'est genre ultra stylax parce qu'en fait tout le monde est un peu genre flic-floc, surtout à Paris, bon, il y a les pavés et tout, enfin, tu te fais vite éclabousser vers les bus et tout. Tout le monde est un peu miskine.
Voilà, et ça casse des barrières. Du coup, tu peux discuter avec Marie. Exactement, tu peux discuter avec Marie-Catherine, qui n'est plus Marie-Catherine, mais globalement, comme tout le monde. Et ça, ça me plaît beaucoup. Je suis ce lundi soir-là où tout le monde parle. On est tous contents de puer le chien. C'est génial.
Est-ce que ton Wheel of Green a été un grand moment d'anarchisme et de communisme, du coup, puisqu'il y avait une grande égalité sociale?
Parle pas de Wheel of Green.
C'est proportionnel à la pluviométrie. C'était un beau moment pour l'égalité entre les peuples.
Ah bah, ça m'a permis de passer mon permis bateau. C'était un grand moment pour tout le monde. Vraiment, le Titanic a fait « Ah ouais, chaud ». J'ai rien dit, tu vois.
Attends, mon rêve, un bateau mouche où pendant la croisière, c'est juste des... C'est nous qui faisons « Laisse-moi kiffer ». Genre, on ne dit rien sur la ville de Paris et tout. Et genre, ils prennent le bateau mouche et l'animation, c'est juste un « Laisse-moi kiffer » en live. Tu fais une heure dans les... comme ça dans les, trucs de... les canaux et la scène. Et après, tu reviens et c'est juste à écouter « Laisse-moi kiffer ».
Bon, on n'a qu'à faire
Si vous connaissez Anne Hidalgo ou le service de communication de la ville de Paris, voire de la région Île-de-France, parlez-lui de « Laisse-moi kiffer ».
Quoi ? C'est pas des entreprises privées qui font ça ?
Peut-être, mais si Anne Hidalgo met un bon mot, je suis sûre qu'on trouvera une entreprise privée qui veut financer LMK sur un bateau. Là, j'ai Laisse-moi kayak,
LM
mais
Canal.
C'est nul. C'est... LM Canal, LM super. Canal. Merci c'est Mathis, bon. Si j'étais sur LM Kayak, il n'y a pas de kayak.
Ceci dit, ça peut être une version un peu gênante de LMK aussi.
Mais peut-être qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui a une péniche, en fait. Et ça pourrait être plus petit comité.
Alors, si vous avez une péniche personnelle, déjà,
pourquoi
n'hésitez déjà pas à devenir mon ami. Voilà. Et aussi, n'hésitez pas à inviter LMK sur votre péniche personnelle. On fera, tu vois, genre, je fais des snacks, on fait des cocktails, et puis on est ensemble et on fait LMK, quoi. Voilà, c'est une idée comme ça. Rappelons que je ne travaille plus chez mademoiselle.com, donc je lance vraiment ça dans le vent. Peut-être que cette petite graine poussera un jour et qu'on fera LMK sur un bateau.
Un jour.
Merci Mathis pour cette histoire d'égalité sociale sur fond de Normandie.
La gauche, le théâtre, c'est moi.
Aïda, quel est ton lundi soir plus vieux? La gauche, le théâtre, c'est moi. Mais on est où là? La République, c'est moi.
Bah oui.
Je suis deg parce qu'en fait, maintenant que Mathis vient de dire que la pluie, c'est de gauche, je ne peux m'exprimer sans me trahir. Mais... Non, en vrai, un lundi soir pluvieux, je suis un lundi soir contrarié, où en fait, je me dis, tous les lundis de ma vie, depuis ma naissance, je me dis, Aïda, c'est lundi, c'est important que tu rentres chez toi te reposer parce que tu es fatiguée, surtout
de ton week-end.
Depuis que j'ai dépassé l'âge canonique de 22 ans et que le lundi, j'ai la gueule de bois du vendredi.
On est ensemble, on se sait. Ne restez pas seuls, parlez-en à vos proches.
Du coup, je me dis, Aïda, tu vas rentrer chez toi, ça va être trop bien. Tu vas te faire une petite soupe, chiller avec ton chat, jouer aux Sims, c'est tout. Oh. Et en fait, quand il pleut et que je décide de faire ça, je le fais, mais en étant complètement déprimée. Parce que je me dis, si seulement j'étais dehors et qu'il faisait beau, je pourrais faire ci et ça.
Mais s'il faisait beau, tu serais pas dehors?
Bah non plus, mais ça n'a pas de sens.
C'est juste par esprit de contradiction, quoi.
Ouais,
c'est...
mais envers moi-même. Tu vois, c'est un esprit de contradiction qui sert à rien, à part à me faire chier. Et du coup, je rentre chez moi, j'écoute My Chemical Romance et je suis là, ouais, la vie c'est nul, Donc d'ailleurs, c'est ce que je vais faire ce soir probablement. Rentrer chez moi et déprimer parce qu'il pleut, du coup, je peux pas aller dehors alors qu'à la base, j'avais prévu de ne pas aller dehors.
Tu m'as manqué. La go, elle est vraiment genre mécontente par principe, j'adore.
Et ensuite, je fais grève dans ma tête.
Évidemment, car la gauche, même si, du coup, ne pas aimer la pluie, est-ce de droite? Vous avez 4 heures, n'hésitez pas à donner vos opinions à Aïda en DM, je suis sûre qu'elle a hâte.
On débattra.
Anthony, qu'est-ce que tu fais les lundis pluvieux de ce début d'automne?
Bah, en fait, j'adore la pluie. Trouve que la pluie nous manque parfois. Je crois que c'est dans un film de Christophe Honoré, d'ailleurs, ça. C'est Les Amants Imaginaires. Non. Pardon, comment ça ? Les chansons d'amour. Non, en fait, non, c'est La Belle Personne. Je raconte n'importe quoi. Bon, pardon, je m'égare.
Ouais.
Un film musical de Christophe Honoré que je vous recommande. Voilà. Non, j'adore la pluie. Je trouve ça vraiment hyper reposant. Et je me rappelle de plein de journées pluvieuses en Martinique où t'écoutais la pluie sur les feuilles de tôle qui te servent de plafond parfois. Et sinon, ici, dans l'Hexagone, ce que j'aime beaucoup, bah, c'est bouquiner chez moi. D'ailleurs, ce soir, là, il y a mon book club Livresse. Et on se réunit pour parler de...
T'en as déjà parlé dans l'MK?
Oui,
ouais, je crois. Okay. Ouais.
Sinon, j'allais dire, mais du contexte, ça va intéresser les gens. Mais du coup, retrouver l'épisode où il en a parlé et puis noter.
Après, c'était pas un kiff, mais je le disais juste comme ça, effectivement. Et là, en fait, bah, du coup, on va parler littérature autour de thé et de vin et de fromage et autres.
C'est trop bien.
Et ouais, c'est assez chouette.
Ouais, c'est une bonne façon, quand il pleut, de s'occuper. En vrai, c'est trop cool.
Bah, en vrai, ce que je préfère encore plus, c'est être seul chez moi à bouquiner. Mais c'est ça que je trouve aussi agréable, c'est que du coup, il y a plein de gens qui sont... qui annule les plans parce qu'il pleut. Et du coup, tu peux rester chez toi parce que t'es... Oh non, désolé, c'est annulé. Bon, quel dommage, je dois rester tout seul chez moi. Zut alors. Et moi, je suis ravie en tant que grand timide introverti que je suis. Du coup, ouais, c'est mon best plan, c'est être solo chez moi, bouquiné avec la pluie qui bat contre les vitres et ça fait un bruit hyper mélodieux. Et deuxième plan, c'est être avec d'autres gens et bouquiner avec d'autres gens. Bah, mon coloc, ça nous arrivait de bouquiner ensemble quand il pleuvait dehors. Et juste, on est dans la même pièce et on lit chacun notre truc, tu vois. Et avec mon ancienne coloc, encore plus fréquemment parce qu'elle lisait énormément et elle a une concentration de malade. Et à chaque fois, elle arrive à se plonger dans des livres pendant des heures et des heures. Moi, j'ai grave du mal, mais ça motive. Et c'est assez cool, quoi. Juste être dans la même pièce, lire chacun son truc et être seul à deux, c'est merveilleux. Voilà.
C'est beau.
C'est beau. Et la pluie aide à être, à avoir des bonnes raisons d'être à l'intérieur, même si après, du coup, des fois, on râle qu'on est à l'intérieur, visiblement. Et à passer du temps seul à deux. En tant que bon gros canard romantique, je vous rappelle que vous pouvez aussi vous lire des livres avec les gens que vous aimez, pas forcément romantiquement. Oui. Quand il pleut dehors, si en plus vous avez un Velux, c'est la fin du game. C'est bon, vous aurez créé un lien qui va durer à jamais. C'est la règle. Lisez-vous des livres.
Et toi ?
Moi, je suis un peu un mix dans le sens où, évidemment, j'aime bien être chez moi quand il pleut et bouquiner ou faire une soupe ou jouer à un jeu de plateau. D'ailleurs, soit dans le prochain épisode, soit dans le précédent, parce que le temps n'a pas de sens et on vit dans la bibliothèque d'Interstellar. Je vous parlerai, ou je vous ai parlé, d'un jeu de plateau de Maxi Nerd qui s'appelle Gloomhaven. Voilà, il y a peu de gens, je pense, qui l'auront, donc c'est pas un gros spoiler. Mais c'est excellent quand il pleut dehors. Mais on en causera, ou on en a déjà causé, du coup je vous embête pas plus avec ça. C'est compliqué, je sais pas pourquoi je me suis lancée dans cette quête latérale, mais c'est pas grave. Donc, évidemment, en tant que bonne oursonne, j'adore être chez moi quand il pleut et tout. Mais en vrai, je pense que je préfère être dehors quand il pleut que dehors quand il pleut pas. Parce que, comme t'as dit Anthony, il y a plein de gens qui fuient la pluie, donc il y a moins de gens dehors. Toi, tu l'as tourné sous comme ça, les gens annulent les plans et on peut rester chez soi. Mais en vrai, dehors, du coup, il y a beaucoup moins de gens. Enfin, tu vas au resto, tu vas... Bon, Paris, c'est une grande ville, donc il y a encore plein de gens qui font des trucs, mais ça libère quand même pas mal d'espace parce qu'il y a plein de personnes qui, dans le doute, vont dire « Ah, cette goutte de pluie était la raison qu'il me manquait pour annuler et rester chez moi. »
C'est la goutte d'eau.
Donc, c'est la goutte d'eau, tout à fait. Wow. Je l'ai pas eu, je me déteste. Wow. Je reconsidère mon choix de carrière de parler dans des micros, je vais faire une introspection, je reviens. Et j'aime bien le côté les gens qui courent avec la pluie et tout, genre, j'aime bien l'ambiance que la pluie donne à la ville et aux rues et aux gens. J'aime bien les petits moments quand c'est pas creepy et que c'est pas des personnes bizarres où t'es genre voilà, serré sous un abribus avec des gens que tu connais app et tu te regardes juste dans la même galère, parfois des gens très différents de toi, que ce soit en termes de look ou quoi, mais que t'es juste dans la même galère de oh là là, on se prend la flotte et on attend que ça passe. Et ce soir, je vais au restaurant avec une amie alors qu'il pleut et je suis très très contente parce que j'adore être au restaurant alors qu'il pleut dehors. Je trouve que c'est trop bien parce que non seulement t'es dedans alors qu'il pleut dehors, mais en plus t'as de la bouffe qui arrive. Incroyable ou pas ? Incroyable expérience. Et genre, c'est pas toi qui l'as préparée, elle arrive et tu peux choisir ce que tu veux.
C'est génial.
Du coup, je pense que je suis un lundi soir au restaurant ou au bar alors qu'il pleut dehors. Et j'aime bien même le petit moment où tu sors et genre tu relèves ton col et t'es là, ok, il faut rentrer maintenant. Mais je hais les transports en commun quand il pleut, car l'odeur de chien mouillé du métro, c'est pas ma passion. Oh. Et il y a moins de gens qui sortent, mais ceux qui sortent rentrent moins à pied et en vélo puisqu'il pleut, donc il y a beaucoup plus de gens dans les transports. Ça, c'est pas ouf. Donc le mieux, c'est se faire un resto un soir où il pleut, mais à distance à pied de chez soi. Comme ça, on rentre, on a le temps d'être un peu mouillé, mais c'est pas grave, et on rentre à pied, on se tape pas le métro.
Et puis les parapluies, c'est quand même un outil formidable.
Non, je suis dans la faction anti-parapluie, okay, ça n'a pas de sens. Pardon. Le parapluie est un... Je suis fondamentalement opposée aux objets à usage unique, surtout quand ils sont encombrants. Par exemple, je refuse de posséder un presse-purée, parce que ça sert à rien, à part à presser la purée, ce que tu peux faire avec genre une cuillère en bois, et ça prend une place monstre et ça bloque ton tiroir. Tout le monde le sait, les presse-purées, c'est une secte. Okay. Et les parapluies, c'est pareil, ça sert à genre se protéger de la pluie, ce que tu peux fondamentalement faire avec un petit chapeau ou une casquette et une veste un peu imperméable, ou une capuche qui va dans ton sac, sauf si tu dois vraiment protéger tout ton outfit, même ça, ça marche jamais. Le parapluie, il te ment, tu vas être mouillé anyway, mais tu devras en plus te trimballer un truc encombrant qui en plus sera mouillé, donc tu vas en foutre partout, tu peux pas le remettre dans ton sac parce qu'il est trempé, tu rentres chez les gens, tu veux le mettre dans leur salle de bain, ils disent attention, l'ouvre pas à l'intérieur, et t'es là, bah, qu'est-ce que je vais faire, il va moisir. Au restaurant, tu le poses à côté de la porte, évidemment, en partant tu l'oublies, donc la fois d'après il pleut, t'as oublié que t'avais un parapluie. Le parapluie, c'est non, mettez des casquettes, relevez votre col, c'est pas grave, on n'est pas en sucre, on va pas, voilà, beaucoup d'opinions sur les parapluies.
Mais mes cheveux, Minu, il y a aucune de tes options.
J'ai la chance d'avoir des cheveux lisses et fins et de m'en battre les couilles des frisottis. Enfin, j'aime bien le fait que quand il pleut, tout le monde... Enfin voilà, personne n'est tiré à quatre épingles, tu vois, genre, est-ce que le parapluie va vraiment empêcher mes cheveux de prendre l'humidité ou pas ? Non. Est-ce que je vais arriver mal coiffée ? Oui. Est-ce que c'est grave ? Non, pas forcément. Si un jour je suis invitée à l'Élysée ou quoi, un soir où il pleut, je prendrai peut-être un parapluie. Alors, le seul que je possède, il y a une loutre dessus, donc je suis pas sûre que
oui,
tu me laisses
la
rentrer.
La loutre à l'Elysée.
N'hésitez pas à inviter Mimi, rien
que
pour ce moment.
Je crois que c'est une loutre avec un slip sur la tête, si je me souviens bien. C'est un ancien produit dérivé d'une box mademoiselle. Voilà.
La distinction, finalement.
Ça n'a pas de sens. Et cet été, en Sicile, j'ai vu un sticker que j'avais mis en story. Je ne sais pas, il n'y avait pas d'indication autre que ça. Il y avait un dessin stylisé d'un mec qui éclate un parapluie par terre. Il y avait marqué un truc genre « Fuck umbrellas, get wet ». Donc nique les parapluies, soyez mouillés. Et j'étais là, oui. J'ai donc un peuple, une armée, un, je sais pas, une secte, mais une guilde. Je ne sais pas qui sont ces gens, j'ai googlé. Personne ne sait c'est quoi ce truc. Il y avait un ou deux posts de gens qui étaient là. Je l'ai vu au Royaume-Uni ou je l'ai vu au Danemark. Mais qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qui fait ça ? Et
fou.
Personne ne sait. Donc si vous savez, je vous remettrai, on vous mettra en story sur le compte de LMK cet autocollant Fuck Umbrellas Get Wet ou No Umbrellas Get Wet. Si vous savez d'où ça vient, qui sont les gens à l'origine de ce grand message politique, dites-le moi, ça m'intéresse.
C'est incroyable.
Ah, encore une intro courte puisqu'on est à l'étape 2. On est ravis. Du coup, on va avancer un peu vite. On va faire commentaire vite fait, message boubou. Et
ça
après,
va, on est bon. Dans les temps, oui. Ouais, ça va.
Mathis, est-ce que tu as un commentaire ? Merci à toutes et tous pour ces envies de lundi.
Merci à toi.
J'espère que ça a inspiré nos LM Crado.
Oui, bah du coup j'ai un commentaire de Emily, mais ça s'écrit A-I-M-I-L-Y, voilà, comme, je sais pas pourquoi.
Pas comme la chanteuse.
Pas comme la chanteuse, par exemple. Quelle chanteuse ?
De la naissance.
Ah.
Emily, c'est en deux mots.
Ah.
Voilà les gens qui avaient 14 ans et qui étaient molorons chez eux.
Et donc elle m'a envoyé, je voulais te remercier pour ton kiff sur Ruby, parce que oui, j'ai encore décidé de rebondir sur ce kiff, ce que je vais peut-être le faire à chaque épisode jusqu'à la fin de cette émission, peut-être. Elle me dit oui, c'était un petit moment, mais j'ai zappé, en vrai ça va. J'ai adopté un chien venant d'une association qui récupère des chiens en Italie il y a bientôt 3 mois, et t'écouter raconter les débuts de Ruby m'a vraiment rassuré. J'ai fait un espèce de puppy blues les premières semaines où mon chiot est arrivé. On n'en parle pas assez de ça et je savais pas que ça existait pour les chiens, et je suis d'accord avec toi Émilie. En effet, on a appris que le puppy blues existait en ayant un petit chien. En ayant Ruby, on s'est dit merde, on regrette, on n'est pas bien, c'est chaud et tout, on s'en voulait de ouf, tu culpabilises et puis tu regardes et en fait il y a plein d'articles, il y a plein de gens qui ont ressenti la même chose, juste en fait on en entend rarement parler avant que ça nous arrive. Et du coup, bah, Émilie a été dans cette même situation et dit « Et j'avais l'histoire de Ruby qui m'a vraiment réconforté. J'arrive à me rendre compte que mon chiot Milo va vraiment évoluer et que rien ne reste figé. Il est encore très peureux, mais ça va de mieux en mieux. » Pardon.
Oh.
Oui.
Et love
du coup,
Milo.
Du coup, voilà, elle m'a montré une petite photo du petit Milo. Que... Bon. Alors attendez, il faut que je retrouve la photo du logo parce que c'est plus sur mon screen, évidemment.
Mais c'est un... Dogo. J'avais eu ça, mon chat, quand il était petit, il avait eu un accident, il était tombé du balcon, ce con. Il avait rien eu, ce qui était étonnant, mais il est tombé quatrième quand même, mais il était trauma, forcément. Donc évidemment, le véto m'a dit, bon ça va, on lui a fait des radios et tout, machin, il a rien, mais il va être potentiellement un peu différent, parce que peut-être il a eu très peur. Et j'étais là, ok. Effectivement, pendant genre 4 jours, le chat est plus sorti de l'armoire, il était planqué au fond, il sortait vaguement la nuit, il mangeait 3 croquettes, il voulait plus que je le touche et tout, et j'étais vraiment hyper déprimée, j'étais là... Est-ce que ça va être comme ça tout le temps ? Genre, est-ce qu'il est cassé ? Et genre, maintenant mon chat, c'est un truc qui vit dans le placard et qui veut plus que je l'approche. C'était trop triste. Alors que heureusement, comme il a 3 neurones, il a fini par oublier son trauma. Et maintenant, il va mieux.
Bah,
ne désespérez pas.
Ruby a été traumatisée par sa stérilisation. Donc,
à cause du cône de la honte ?
À cause du cône de la honte, en partie, du petit pansement. Et je me souviens, on l'avait assez peu, encore eu, je sais pas, on a dû le faire 2 semaines après son adoption parce que c'était à peu près dans les âges et tout.
Oui.
Et du coup, elle nous connaissait pas très bien et en fait, elle voulait plus qu'on l'approche. Donc, elle couinait et tout et on était vraiment.
Bah, t'imagines la trahison.
Bichette. Ouais, de ouf, elle le regardait trop mal.
Et 2 semaines après, ils font stériliser, t'es là, oh je croyais qu'on était potes, c'est quoi ça ?
Elle se mettait à l'autre bout du salon, elle nous fixait, elle nous regardait mal.
Je déteste.
Voilà Milo, du coup, une petite photo.
Oh oui,
de
c'est un
Milo.
Super chien.
Oui, ça grandit vite ces chiens-là. On oublie souvent qu'ils sont jeunes parce qu'ils grandissent très vite, mais je crois qu'il avait 3 mois de ce qu'elle m'a raconté. Ou 6 mois. Ouais, c'est ça. Il a 6 mois et demi, c'est ça. Donc, c'est encore un bébé. Hein. Moi, Ruby, elle a 2 ans. C'est une grande. Ce qui ne l'a pas empêché de chier sur mon tapis ce matin. Voilà.
Ah, l'occasion de vous redire que si vous souhaitez avoir un animal dans votre vie, n'hésitez pas à regarder plutôt pour l'adoption et les refuges et les associations plutôt que d'en acheter un ou d'en prendre un random sur le bon coin, car il y a beaucoup d'animaux qui cherchent des familles et des maisons.
Oui.
Et
oui.
Il y en a plein des différents. Donc, même si genre, vous vivez sans jardin, etc., ça peut se trouver. Mm-mm. Aïda, est-ce que tu as un commentaire ?
J'ai pas de commentaires cette semaine, mais j'ai 3 messages de service à passer au LM Cœur aujourd'hui.
Elle a dit LM Cœur, du coup j'ai l'impression qu'elle va vous embrouiller. Je sais pas pourquoi.
Non, trop pas, c'est que des messages de l'heure en plus.
Sorry.
Parce que ça fait longtemps en vrai que je suis pas venue dans Laisse-moi kiffer. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas pu échanger avec vous. La dernière fois que je suis venue, je pense que c'était l'épisode de la honte, où j'ai raconté tous les trucs que je faisais une seconde et qu'après j'arrêtais.
Oui.
Et où ça je va, me suis fait humilier devant la France entière. Non, mais en vrai, il y a plein de gens qui m'ont écrit après des DM sur Insta pour me dire « Faut pas t'en vouloir si tu fais pas des choses très longtemps, c'est trop cool de juste avoir des envies et puis ensuite de voir si ça tient ou pas. » Bref, j'ai eu plein de petits mots hyper encourageants et hyper cute. Merci, merci de m'envoyer des trucs comme ça. Déjà parce qu'en vrai, bon, moi si je l'ai raconté dans LMK, c'est pas... Enfin, si ça avait été un complexe terrible, je l'aurais peut-être pas raconté dans Laisse-moi kiffer. Mmh. Mais c'était un kiff de recevoir des messages un peu déculpabilisants comme ça. Et aussi, bah, en fait, c'est vous qui avez raison et c'est moi qui ai raison. Donc je partage ce message à la terre entière maintenant. On a grave raison de faire ce qu'on veut et si on a envie de le faire que deux minutes, si les gens nous shame, on leur répond qu'on les aime pas. Voilà.
Bien dit, ouais.
On vous déteste. Non, mais ça, c'était un premier message de service. Merci à tous les LM Crado qui m'ont envoyé ça. Deuxième message de service. Je suis allée à la fête de l'UMA il y a quelques semaines. C'était censé être un kiff. Et puis en fait, finalement, ça n'a pas été un kiff parce que j'ai eu le Covid après la fête de l'UMA. Que j'y retournerai jamais. Bref. Non,
est-ce que tu boudes et tu décides de ne pas faire de kiff sur la fête de l'UMA parce que tu as chopé le Covid?
Bah parce que la chute, ça va être. C'était un super moment. Et après, j'ai eu le Covid. Enfin, tu vois,
putain, ça aurait été si marrant. C'est, ça dit comme kiff, c'est 20 minutes de kiff et à la fin. Et sinon, j'ai eu le Covid. Donc je déteste la fête de l'UMA.
Mais j'ai déjà fait ça pour un autre truc il y a 3 semaines. Ouais, c'était mon kiff. En fait, j'ai eu
le Covid, Aïda.
Mais en tout cas, à la fête de l'UMA, j'ai croisé une personne qui m'a dit « Salut, t'es Aïda, j'adore, laisse-moi kiffer ». C'était trop chou, j'étais très concentrée sur un concert de Lélo au moment où t'es venue me voir, mais merci de m'avoir fait coucou. C'était un plaisir et voilà, si jamais vous me croisez, n'hésitez pas à me faire coucou, ce sera toujours un truc chouette. Sauf si je suis d'humeur à parler à personne, mais même dans ce cas-là, en vrai, je vous parlerai à vous parce que je vous aime bien.
Ils peuvent pas deviner sinon les gens.
Bah ouais, grave.
Ils peuvent difficilement savoir quoi, sauf si tu as un badge qui dit non.
Mais peut-être.
Attends, ce serait bien. Comme les magasins où tu sais, t'as genre des paniers bleus pour dire je veux qu'un vendeur m'aide et des paniers roses pour dire laisse-moi tranquille, je veux pas d'aide, tu vois.
Attends, ça où?
Ça existe dans certains magasins. Je crois que j'avais fait un article sur Mademoiselle sur la question. On vous mettra les liens soit d'un article d'un autre média, soit de Mademoiselle. Merci. Dans les notes du podcast.
Merci pour cette précision qui m'aidera à référencer mais sans problème
verrai,
cet article.
Je c'est et... dans pas assez de magasins, mais ça existe.
C'est vrai. Et troisième message de service, pareil, il y a plein de LMKR qui m'ont écrit en mode « Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, donc laisse-moi kiffer, j'espère c'est que ça va bien, que t'es en vacances et tout. » C'est vraiment trop sympa de se demander où je suis. Et vous m'avez manqué aussi. Voilà, merci de m'avoir envoyé tous ces messages pendant ma pause de LMK, j'ai trouvé ça trop cool. C'est toujours trop bien d'interagir avec vous et je vous le dis pas assez souvent. Merci les LMKR.
Oh.
Voici.
Merci les LM Cœur. Tu nous as manqué, Aïda. Welcome back.
Moi aussi, vous m'avez manqué.
Welcome back. J'ai un petit message. Enfin, j'en ai reçu plusieurs qui étaient vraiment adorables. Bon, on dirait vraiment que je suis payée par la Martinique pour parler de la Martinique à chaque épisode. Mais vraiment,
One day, j'espère. C'est le glow-up que je te souhaite.
I wish, I wish.
L'office de tourisme de Martinique dans TDM. When?
De ouf, pokez-les, demandez-leur que je devienne influenceur Martinique, je sais pas. Mais en tout cas, parmi les messages, donc plusieurs étaient émus par le fait que je parlais du chocolat chaud de première communion, qu'on boit pas que
si bon
pendant la première communion. Oui, c'est très très bon. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui m'ont signalé le message que... Enfin, pardon, qui m'ont signalé le nom qui m'échappait pendant l'enregistrement de la boisson chaude qu'on boit, qui est un peu l'équivalent, mais c'est assez différent. En Guadeloupe, ça s'appelle le chaud d'eau, et c'est un peu comme un lait de poule, en fait. Voilà. Donc si quelqu'un veut me faire un chaudo, je suis preneur. Il n'y a pas de sous-texte. Et sinon, il y avait parmi les messages, il y avait celui de Sabrina Scott qui me dit qu'elle a dû faire pause absolument pour m'écrire ce message et me dire que le chocolat chaud de première communion, c'est la vie, le pain au beurre aussi, et que l'équivalent en Guadeloupe, du coup, c'est le chaudo. Et elle disait qu'elle trouvait ça assez... que ça lui faisait très plaisir qu'à chaque fois que je fasse découvrir aux autres la culture antillaise, et surtout que tout le monde a l'air vachement ouvert et intéressé. Et qu'elle avait arrêté de dire que son plat préféré, c'était le dombré haricot rouge queue de cochon, parce qu'on l'a regardé trop bizarre. Et du coup, petit point contexte,
est-ce
pour
qu'on peut en savoir
pas,
plus sur ce plat?
Voilà. Merci. Bah, en trop vrai, bien. Moi, c'est aussi mon plat préféré.
My God, ok, tell me more.
Enfin, c'est un plat hyper simple. Déjà, je sais pas pourquoi. enfin peut-être que ça s'explique pour plein de raisons, mais je crois que c'est des raisons liées à l'esclavage en réalité. Mais on mange beaucoup de légumineuses aux Antilles, de lentilles et de haricots rouges. Et en fait, le riz haricots rouges, c'est un plat qu'on trouve sur plein de tables antillaises. Et du coup, c'est vraiment des haricots rouges qui sont hyper cuits. Genre, on dit qu'ils sont crevés. Enfin, on dit ça en créole, du coup, c'est un peu bizarre en français. Mais voilà, donc ils sont assez cuits.
Ils éclatent un peu, c'est ça, c'est
ouais, un petit peu, ouais. Et du coup, ça donne. Enfin, c'est pas comme les haricots que t'achètes en conserve de X ou Y marque. Mais c'est plus. Enfin, c'est plus presque plus épais, quoi. Ça fait pas non plus la purée, mais bon, c'est pas loin. Et du coup, tu sers ça avec du riz. Et souvent, en fait, pour saler le plat, soit t'as de la morue dans d'autres plats, soit dans le riz haricots rouges, souvent, ce qu'on met, c'est de la salaison de porc. Et du coup, ça va être des queues de cochon ou des groins de cochon. Et du coup, moi, je suis végétarien maintenant, donc j'en mange plus trop comme ça. Enfin, sauf quand c'est ma mère, parce que. Voilà quoi, et que c'est ma grand-mère, enfin, c'est vraiment un plat émotionnel, du coup j'ai beaucoup de mal à arrêter.
Chacun met les dérogations là où il veut, voilà, et personne ne va te blâmer. Et j'imagine que c'est pas tous les mardis quoi.
Donc, non, clairement pas.
En termes de... Si t'es végé 90% de l'année, pour moi t'es végé, mais bon, je dis ça, je suis pas végé. Donc,
En tout cas, effectivement, c'est la salaison que tu trouves régulièrement dans le plat, le riz haricots rouges, et c'est pour ça qu'on dit queue de cochon. Et les dombrés, c'est un peu comme des gnocchis que tu mets à l'intérieur. C'est en gros, c'est de la farine et de l'eau que tu roules en boule et que tu mets à cuire avec les haricots rouges. Et en vrai, c'est hyper simple, c'est vraiment rudimentaire. Mais enfin, après, il y a des épices, tu vois. Donc, il y a du bois d'Inde qui est une feuille un peu comme des feuilles de laurier. Et d'autres épices encore, des clous de girofle, etc. Et du coup, c'est vraiment un plat de la vie quotidienne, en fait, que tu manges comme ça. Et c'est pas un plat de fête ou quoi. Ça coûte vraiment pas cher aussi à faire. Et du coup, voilà, c'est vraiment le plat régressif que ma mère me fait quand je viens la voir, tu vois. Et c'est vraiment un truc que j'adore manger. Bref, et du coup, voilà, merci pour ce commentaire qui m'a donné envie de réclamer un riz haricots rouges à ma daronne. Mais j'en fais parfois aussi, j'avoue. Mais c'est juste que ça n'a pas le même goût, quoi.
Mais tu le twistes en végé ou t'es obligé
Oui, ça tu fait peux vraiment le twister parce que ouais. En fait, c'est là pour apporter du salé. Et aussi, en fait, dans le porc, surtout le groin et la queue de cochon, il y a beaucoup de gélatine. Du coup, ouais. Ça, je pense que ça contribue aussi à gélifier un peu le
la sauce. J'étais en train de me demander comment t'amènes le collagène sans...
C'est ça.
Sans truc animal, peut-être avec des trucs genre de l'agar-agar.
Je pense que tu peux essayer, ouais, mais moi je le fais sans, j'avoue.
Oui, après,
tu peux aussi mettre une cuillère à soupe de maïzena, genre, pour épaissir un peu.
Tout à fait.
Mais l'agar-agar, ça marche. J'ai jamais essayé.
Dans du salé. Je vois beaucoup des gens faire de la gélatine avec, mais bon, si vous êtes plus doué que moi en tout ce qui est cuisine moléculaire et gélatine, moi, j'ai une recette de chicken soup qui marche très bien et qui est. Donc la chicken soup, c'est des cuisses de poulet qui sont d'abord grillées, puis ensuite avec les jus de ces cuisses-là, on fait un bouillon et on cuit des légumes et le poulet dedans. Et c'est beaucoup du coup de cartilage et d'os et tout qui vont amener du collagène. Et du coup, je peux la faire... Enfin, j'ai juste pas d'alternative végé parce que je suis là, sinon c'est des carottes et du céleri dans du bouillon. Ouais, de légumes, c'est vraiment plus du tout une chicken soup. Ça n'a plus les mêmes marqueurs, sauf peut-être le gingembre. Donc si vous avez une alternative végé au collagène, écoutez, ça m'intéresse. Et n'hésite pas à créer un podcast sur la cuisine antillaise, Anthony, car... J'aimerais qu'on en parle pendant des heures. Ça donne très envie. Merci beaucoup. Moi, j'ai un petit commentaire de Louise Knepp qui me dit « Bonjour Mimi, grâce à toi, j'ai lu Dolores Claiborne et c'était une découverte incroyable. » C'est un bouquin de Stephen King dont je vous ai parlé il y a quelques épisodes. « J'ai beaucoup de mal à lire depuis quelques mois, alors que j'ai toujours adoré ça. Je suis fière d'avoir réussi à remettre le pied à l'étrier. Le désir de connaître ce roman qui ne me semblait pas trop complexe m'a fait surmonter ma fatigue et mes difficultés de concentration. Merci de m'offrir la satisfaction de dire « J'ai fini un livre !» Eh bien, de rien, Louise. Et moi-même, je passe faire des périodes de 6 mois où je touche pas un bouquin et des périodes de 3 mois où je vais bouquiner toute la journée. Donc, parfois, on n'est pas dans le mood. Parfois, ça revient. C'est pas grave, tout va bien. Et elle me dit, sur un autre sujet, « PS, moi non plus, je n'écoute pas de musique. Quand j'étais ado, ça me complexait de ne rien connaître et de ne rien aimer. Souvent, quand je rencontrais des gens, ça faisait partie des premières questions qu'on me posait. Tu écoutes quoi ?» C'est vrai que ça se dit beaucoup quand on était ado. Mmh. J'ai appris par la suite que je faisais de l'hyperacousie, c'est-à-dire que j'entends plus fort que la moyenne des gens, et de la misophonie, beaucoup de sons me semblent affreux voire douloureux. Ça m'a aidé à relativiser et à comprendre pourquoi j'associe la plupart des musiques à « il y a beaucoup trop de boucans dans cet endroit ». Grâce à toi et à ton affirmation décomplexée de « je n'écoute pas de musique, je n'ai plus besoin de me justifier ou d'expliquer cette bizarrerie ». En effet, tu peux juste dire « je n'écoute pas de musique », mais c'est intéressant de savoir que ça vient de quelque part... Pour toi, Louise, pour moi, non, je n'ai pas d'excuse. Peut-être le fait que je suis nulle en rythme, ça ne m'aide pas à vibrer avec l'art musical. Mais en effet, oui, j'avais un ex qui faisait de l'hyperacousie aussi, donc qui était hyper sensible au son. Et alors, paradoxalement, il adorait le punk et les concerts de punk. Donc parfois, ça marche, mais il y avait un milliard de bruits qui, vraiment, il partait, quoi. Il sortait physiquement de la situation parce qu'il pétait un câble. Donc soutien aux hyperacousiens.
diagnostic aux gens qui ont de l'hyperacousie. Il me semble qu'on a, Mathis, un petit... Pour la... Ça fait un petit moment aussi. On a un petit message. Boubou. Un message.
Réré.
Un message.
Bourré. Bourré.
Comme d'habitude. Merci pour ce bel ensemble.
C'était inutilement sexy. La voix qu'on a.
Moi, j'ai adoré cette sensualité. Comme d'habitude, l'abus d'alcool est bien sûr dangereux pour la santé et c'est à consommer avec modération. Waouh. Laisse-moi kiffer, ne vous encourage pas à vous bourrer la gueule, mais si jamais vous vous retrouvez légèrement pompette et que vous avez envie d'envoyer un audio à @laisse-moi-kiffer et pas @LMK toujours, n'hésitez pas, ça nous fait plaisir.
Bah, c'est un message de Kevin Picot qui date beaucoup, qui date à peu près de mon arrivée chez Mademoiselle. Donc
c'est assez Kevin, drôle. On espère que tu as dessoulé depuis.
Exactement, et ce vocal a resté, est resté quelque part à pourrir dans un dossier. Et Kevin a fait ce que je vous enjoins à faire de tout cœur. Faites des relances tout simplement quand vous avez envoyé votre message boubou depuis longtemps et qu'il n'est toujours pas passé. Je suis désolé, vraiment insistez. J'ai changé de système de classification entre temps et tout. Enfin, c'est compliqué, on en reçoit vraiment beaucoup. Et l'organisation, moi, ça met du temps des fois à se faire. Bref, du coup, message de Kevin Picot.
Vous laissez-moi kiffer. Déjà, je tiens à vous dire que je vous aime beaucoup. Rien qui va là. J'aime beaucoup votre podcast. Franchement, c'est un des podcasts que j'écoute le plus. Ça fait genre environ... Enfin, depuis que le podcast est... 1, 2, 3. Le podcast existe que je vous écoute. Je pense facilement tous les épisodes au moins deux fois.
Merci.
Pour certains, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, voire même plus. Je sais que l'épisode 21 de Laisse-moi kiffer. Là, j'ai oublié le titre parce que clairement, je sors de soirée avec des potes et j'ai oublié. Mais je sais que l'épisode 21, je l'ai particulièrement adoré. Je l'écoutais, oula, je ne sais combien de fois. Parce que je pense que c'est l'épisode où il y a Kalindi qui raconte son histoire avec l'incendie. Et franchement, c'est une des meilleures histoires de Laisse-moi kiffer. Et en tout cas, voilà, je tiens à dire que j'adore le travail de donc de tous les gens qui sont passés par Laisse-moi kiffer, c'est-à-dire Louise, Alix, Kalindi, Mimi, Marie Vrigno, Dorothée, Fab, Queen Camille, Mathis qui vient de rejoindre l'équipe et franchement que j'adore jusqu'à maintenant. Les personnalités masculines dans Laisse-moi kiffer.
Jusqu'à maintenant, being septembre 2021.
Et pourtant, genre, mais si, je l'adore. Cyril par exemple, Cyril
à l'ancienne.
Et voilà, en tout cas, je tiens à dire que j'adore votre travail, que c'est vraiment un podcast que j'écoute à longueur de journée et que quand je m'ennuie, quand je me sens mal, j'écoute Laisse-moi kiffer. Et vraiment, c'est mon podcast préféré. Et récemment, je me suis mis à Game of Thrones grâce à Mimi d'ailleurs. Du coup, j'écoute Game of Thrones Mademoiselle notamment. Et en tout cas, voilà, je tiens à dire que j'adore Laisse-moi kiffer et continuez ce que vous êtes parce que vous êtes super. Voilà, bisous, bisous la famille.
Bisous.
Merci beaucoup.
Incroyable.
C'est trop mignon. Je suis content que cette personne m'ait aimé jusqu'à septembre 2021.
On espère qu'elle t'aime toujours
jusqu'à
car
maintenant.
Ça fait, elle a eu le temps de te découvrir et de changer d'avis potentiellement, mais
peut-être.
Elle a aussi eu le temps de t'aimer encore plus.
Peut-être, peut-être pas.
Deux informations. Petit 1, l'ULMK numéro 21 s'intitule « Les plus grosses vides bolosses de tous les temps ». Et je pense que c'est l'épisode où on a amené le concept de vides bolosses dans « Laisse-moi kiffer ». Puisque l'intro, c'est « Parfois la vie est une pistache et parfois elle te fait des crasses. Mimi, Kalindi et nos auditrices racontent leur vide bolosse et c'est un délice ». Donc je pense que c'est vraiment l'épisode 120% les couilles de notre vie et tous les moments où on a vécu des aventures de miskine. Et c'est donc peut-être effectivement l'épisode de... du célèbre incendie de Kalindi. Si vous ne le connaissez pas, allez écouter LMK numéro 21. Deuxième info, si vous aimez Game of Roll, Mademoiselle, n'hésitez pas à me suivre, par exemple, ou à suivre Aïda sur Instagram.
Ou les
tout
deux.
À fait.
Il est possible qu'une alternative à Game of Roll, Mademoiselle, arrive bientôt. Des bisous. Peut-être qu'à l'heure où vous écoutez cet épisode, elle sera très proche de vous au niveau temporel. Peut-être qu'elle est déjà passée, peut-être qu'elle arrive incessamment sous peu. Voilà! Bientôt, plus d'infos sur Internet. C'était un voilà un peu brutal, désolé. J'ai pas du tout maîtrisé le son de ma voix. Je voulais revenir à un niveau normal. Comme quand tu crois qu'il reste une marche dans l'escalier, en fait non, j'ai trébuché. Merci à toutes et à tous pour vos commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez les envoyer, que ce soit vos commentaires, vos messages boubou, vos vides bolosses, vos anecdotes de stars, etc. Soit au compte Instagram, @laisse-moi-kiffer, soit à nos comptes Instagram respectifs qui sont dans la description de chaque épisode. C'est maintenant l'heure de passer au cœur de ce podcast, à savoir... les kiffs, jingle.
fini de rire avec vos putains de digressions. C'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon. Ah ouais, fini de rire et de dire des trucs au pif. C'est l'heure de lâcher vos kiffs, c'est l'heure de lâcher vos kiffs. C'est maintenant, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs pour en faire les mêmes kiffs. C'est l'heure.
Waouh, merci, merci Valentin. On ne s'en lasse pas. Exceptionnellement, on va changer un tout petit peu de sens, puisqu'on va commencer les kiffs par Anthony, pour une simple raison d'organisation. Il est possible qu'il ait mieux à faire à un moment que de traîner avec nous et qu'il parte plus tôt. Comme ça, on est 120% sûr d'avoir écouté son kiff.
Mais les gens savent l'ordre. Enfin, ils ne sont pas dans la pièce avec nous.
Bah si, on a commencé... Oui, parce que en plus, Kalindi les a éduqués à être ma boule psychorigide. Si on a commencé les commentaires par Mathis, on fait tout par Mathis. C'est toujours le même ordre. Et là, on change mi-épisode. Je sais qu'il y a des gens qui vont être perturbés
tout le
temps
assis dans la même position.
C'est le meilleur pour la fin.
Ouais, quand on est quatre comme ça, c'est toujours.
Oh waouh, d'accord. Okay.
Et les gens le savent.
Eh bien, mon kiff, c'est être un rat et l'assumer.
Mais j'en peux plus de cette équipe.
C'est d'être un gros radin. Voilà, c'est vraiment, je suis la personne qui garde les coupons qu'on te donne au Monoprix et qui attend le bon moment pour utiliser sa promotion au meilleur moment. Je suis la personne qui refuse de boire des verres en terrasse en dehors de la piaware parce que ça coûte trop cher et il y a à manger et à boire chez toi. Je suis la personne qui déteste sortir en fait, claquer de la thune et qui préfère aller chez ses potes ou les recevoir chez soi. Et je suis la personne qui adore le bac des trucs en fin de vie, enfin, preuve de date limite de consommation.
C'est un très bon plan, le bac des trucs preuve de la date limite de péremption.
C'est ça.
Il y a toujours des bonnes.
Et tu peux le twister, hein, je suis pas radin, je suis anti-gaspi.
Non mais voilà, totalement, je suis anti-gaspi. Et d'ailleurs, mon appli préféré, c'est Too Good To Go, tu vois. Enfin, voilà, c'est vraiment la vie.
Est-ce que c'est vraiment intéressant ou est-ce que c'est juste un coup à te retrouver le soir avec 8 croissants et à être là, ah bah cool.
Alors, quand t'es végétarien, c'est pas giga top parce que tu maîtrises pas trop ce que tu vas avoir. Et donc, quand c'est une boulangerie, parfois les boulangers et boulangères sont sympas et tu leur précises, ils disent non, bah ok, je vais faire attention et tout et je vais pas vous refourguer le sandwich au poulet. Mais quand c'est des Franprix, des Monoprix, etc., le panier il est pré-composé et du coup, tu peux te retrouver avec des barquettes de jambon, tu vois.
Mais il pourrait quand même y avoir une ou deux options de... Alors, contexte, Too Good To Go, c'est une appli parmi d'autres qui justement vise à lutter contre le gaspillage alimentaire et à aider aussi des personnes précaires à manger des trucs divers et variés. Puisque en gros, c'est des commerces qui mettent en fin de journée leurs invendus et on peut venir les chercher puisque c'est des choses qui vont se périmer vite. Et ça coûte pas grand-chose.
Ouais, voilà, tu peux avoir un panier de courses qui peut durer 2-3 jours, voire plus, qui te coûtera 4 euros. Quoi. Et vraiment, les boulangeries, c'est un bon plan parce que en fait, les boulangeries, elles ont besoin d'avoir une étale qui semble très garnie pour donner envie. Si elles avaient des étales avec deux croissants et un pain au chocolat pile poil, et ben en fait les gens se diraient mauvais signe, tu vois. Et du coup elles ont toujours énormément de pertes le soir et donc elles ont souvent beaucoup de choses à donner pour peu cher en fin de journée.
Et mais j'ai un story time scandale Too Good To Go. J'ai bossé en hôtellerie et l'hôtel dans lequel je bossais, il faisait des sandwichs exprès pour les Too Good To Go. Voilà.
Mais c'est quoi l'intérêt? Je comprends pas.
Bah, de participer au truc, de faire connaître le bail et de jeter les sandwichs en fin de journée.
Ah, donc d'acheter plus de matériaux pour les mettre dans le Too Good To Go pour que des gens découvrent l'hôtel via, enfin le resto de l'hôtel via Too Good To Go et y retournent après.
Voilà.
Ça me semble être une méthode de communication compliquée.
Ah, c'était terrible.
Après, du coup, côté consommateur, bon, à part que ça respecte pas le deal, côté consommateur, il y a pas de problème. C'est pas genre ils donnaient des trucs périmés depuis 8 jours. C'est
non.
Le sandwich était encore plus frais que ce que je croyais.
Ah, mais c'était que des bails avec de la viande
exprès pour
frais,
moi, donc super. Mais, c'est pas le concept, mais, voilà. Mais très bien.
Mais je voulais mentionner ce scandale pendant qu'on parlait Too Good To Go. Pardon, je te
dénonce.
Non, j'allais juste dire, mais en plus, s'ils les faisaient exprès pour les Too Good To Go et que les Too Good To Go n'étaient pas commandés, ça créait du gaspillage. Enfin, tu vois, c'est genre
le contraire du but, quoi. Bien sûr, c'est l'inverse de la démarche.
C'est terrifiant.
Mais j'avais peur d'un scandale, genre, ils servaient du rat dans leur sandwich.
Ah, mais je citerai pas la marque, mais c'était un scandale, oui.
Non, mais c'est franchement débile, surtout que, en fait, les personnes qui vont prendre un Too Good To Go, je doute qu'elles aient les moyens d'aller à l'hôtel prendre un brunch ou des sandwichs.
En vrai,
quoi.
Ça dépend. Moi, j'ai plein de potes qui sont pas précaires et qui ont Too Good To Go. Et je veux dire, t'es pas en grande précarité non plus, tu vois, juste parce qu'il y a l'aspect bon plan. Il y a l'aspect aussi diversité de bouffe, tu vois. Des fois, t'as des trucs que tu penserais pas acheter. Il y a l'aspect. En vrai, j'ai une pote qui est sur Too Good To Go parce qu'elle déteste faire ses courses. Et elle sait qu'un jour sur deux, à Franprix, elle aura un panier à peu près équilibré de bouffe. Et elle est là, en fait, je m'en fous un peu de ce que je mange. Donc, ça me va très bien, tu vois, le panier Franprix. Donc voilà, il y a plein de raisons différentes où tu peux avoir recours à Too Good To Go et aller claquer un brunch à 30 balles le dimanche dans le même hôtel sans problème, tu vois.
Parce que leurs sandwichs auront été délicieux.
Peut-être, peut-être, effectivement. Je ne suis pas cette clientèle-là, puisque je suis trop radin pour aller bruncher. Vraiment, le brunch, ça me dépasse.
Non, mais
dépasse.
Le prix des brunchs, c'est non. Il y a un article sur Mademoiselle qui s'appelle « Le brunch, cette grosse arnaque ». Il est de moi, et je suis toujours d'accord avec moi-même.
Vraiment, les trucs où tu payes 30 balles pour être mal servi par des gens odieux. Bon, je vis à Paris, hein, ceci explique cela.
Oui, et même tu payes 30 balles des œufs brouillés. De base, il
ouais,
faut arrêter,
délirant,
quoi.
C'est délirant. Alors que tu peux aller chez tes potes et cuire des œufs dans une poêle, et ça serait très bon, en fait. Enfin, voilà. Et donc, ouais, je suis vraiment anti-gaspi. Et surtout, même mon coloc, en fait, il a la phobie du vomissement. Et du coup, il y a plein de trucs qu'il ne veut plus manger quand c'est resté plus de 2 jours, même
ah,
moi,
yes.
en fait, dans le réfrigérateur. Et du coup, moi, je termine ça tout le temps. Genre, je suis là, ah, c'est gratuit.
Le bon goût de gratuit.
Mais de ouf, c'est vraiment délicieux quand c'est gratuit, quoi. J'ai l'impression de gagner de l'argent. Et aussi...
J'ai envie de faire tout un podcast sur ton rapport à l'argent.
Moi, bourré avec 7 spritz à la soirée d'entreprise. Parce
c'est
que
gratuit,
c'était gratuit.
Gagne de l'argent.
C'est vraiment ça.
J'en voulais plus à la fin, mais j'étais en train de redonner quand même.
Mais vraiment, c'est vraiment ça. Et parfois, mon Franprix fait des promos sur le Prosecco bio en plus. Du coup, j'en achète plein. Et à chaque fois que je vais chez des amis, bah, je ramène la bouteille de Prosecco qui est dans mon placard depuis un an, tu vois. Et voilà, et je l'ai payé vraiment pas cher et ça fait son petit effet. Voilà.
J'ai une question. Là, on parle beaucoup de bouffe et de consommables. Donc, à la limite, tu vois, c'est assez cool. Comment tu fais pour pas t'encombrer d'un milliard de trucs si dès qu'un truc est gratuit ou pas cher, tu te dis c'est un bon plan? Enfin, tu vois, genre, en plus, t'es journaliste, tu reçois plein de trucs. Et il faut apprendre à dire j'ai pas besoin de ça, je n'ai pas la place chez moi. Enfin, on le voit avec les équipes beauté de Mademoiselle qui non seulement distribuent des produits en interne parce qu'il y en a trop qui arrivent pour une seule peau et qui parfois font des vides. Genre chez elles, elles trient leur salle de bain et elles ramènent tout ce qu'elles ont pas encore ouvert en disant j'ai déconné, je l'ai emmené chez moi, mais j'aurais dû savoir que 8 crèmes hydratantes c'est pas nécessaire. Est-ce que ça, du coup, est-ce que quand il s'agit de trucs physiques, t'as aussi ce truc de ah si c'est gratuit, let's go. Et du coup, je trouve que très vite, bah t'as 128 autres bagues, 12 pins que tu vas jamais porter, tu vois.
Bah, je prends pas n'importe quoi. Enfin, justement, la nourriture, c'est assez pratique parce que, effectivement, tu la consommes et surtout, j'adore recevoir. Du coup, je fais à manger pour plein de gens qui savent pas que c'est du tout go, tu vois. Mais, enfin, parce que c'est très bien, en vrai. Je fais des super croque-monsieur avec le pain de boulangerie, tu vois. Et tu peux aussi faire des trucs super avec des croissants un petit peu rassis et tout. Mais bref, je m'égare. En ce qui concerne les produits de beauté, par exemple, j'ai une consommation astronomique de produits de beauté. Hein. Genre vraiment.
Bah, ce glow n'est pas seulement génétique, écoute.
Et du coup, vraiment, je me tartine de crème tous les jours, matin et soir, parce que j'ai aussi une peau atopique qui est très sujette à l'eczéma. Et du coup, bah, en vrai, j'ai un sacré flux de oula, c'était très bizarre, de produits de beauté, voilà. Et, mais non, je ne vais pas prendre les pins gratuits de produits d'entreprise ou quoi. J'avoue, j'ai beaucoup de casquettes qui m'ont été offertes. Et comme on me les vole ou je les perds, bah, tant mieux, tu vois. Mais voilà, et surtout aussi, j'aime trop traquer des bonnes affaires sur Vinted, des choses comme ça, parce que, enfin... Après, justement, tout l'argent que j'économise dans la bouffe, j'avoue que je le dépense ailleurs.
Sur Vinted.
Sur Vinted, j'avoue. Mais tu vois, genre, moi, je me coupe les cheveux moi-même depuis que j'ai 7 ans, parce que je trouve ça délirant, parce que j'ai la boule presque à zéro, tu vois. Enfin, je me tonds les cheveux.
On n'est pas sur une coupe qui demande énormément de skill, quoi.
C'est pas élaboré. Mais je me rappelle, avant, j'interviewais des mecs sur leur rapport à leur corps, leur beauté, la carrière, etc.
Quelle belle idée.
Pour une marque intéressante. Et c'était vraiment une belle idée, c'était vraiment passionnant. Et il y avait un mec, notamment, qui avait la même coupe que moi, enfin, d'après moi, tu vois, et qui allait chez le coiffeur 3 fois par semaine. Elle se tonde les cheveux à 3 mm, tu
vois. 3 fois par semaine ?
3 fois par semaine.
Non, mais c'est du blanchiment d'argent à ce niveau-là. Il a un deal avec son coiffeur, c'est... Qui fait ça ?
Et puis le temps...
Après, ça coûte 5 balles, non, de faire
ça. En vrai,
ça
va vite.
De tourner. Même 15 balles par semaine, c'est 45 balles par mois, tu vois. Et puis même au-delà de ça, je suis là, mais c'est chiant. Enfin, moi, j'ai la flemme d'aller chez le coiffeur, c'est pour ça que j'ai arrêté d'avoir une frange, tu vois. C'est juste, c'est du temps, quoi. Même si c'est vite fait, bah, faut y aller, machin.
Après, il faisait coiffeur barbier. Et du coup, il se faisait aussi raser par le barbier. Mais ça restait 15 balles, effectivement, par semaine, en fait. Enfin, même plus que...
Fou.
Non, ça faisait 45 euros par... Attendez, je suis mis en maths. Oui, 45. 15 fois 3. Et du coup, ouais, moi, je l'écoutais, j'étais là en train de délirer, en train de me dire, mais mon Dieu, mais tout cet argent caché qu'aurait pu être une paire de tabis, Margiela.
par exemple, pour prendre un exemple au hasard.
Voilà, ou un sac Hermès, tu vois. Et moi, je regarde les gens parfois claquer leur thune et je suis là en train de me dire, Anthony, tais-toi, ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien, ne dis pas que t'as à manger chez toi, ne dis pas que t'as à boire chez toi, tu deviens ta daronne. Et vraiment, c'est ça.
Mais est-ce que tu penses pas que... Tu vois, moi, je suis l'inverse de toi. Je suis vraiment genre, l'argent, depuis que j'en ai assez pour pas m'en inquiéter avec mon rythme de vie, mon plus grand plaisir, c'est de pas m'en inquiéter et d'être là en mode let's go. Tu vois, on fait le truc, c'est pas grave. Genre, c'est, que ça soit 50€, 70€, on s'en fout. On va passer un bon moment. L'argent, c'est un outil pour faire des trucs cool. Et du coup, moi, ce que j'entends, c'est mais tout ce temps que tu perds à traquer la bonne affaire et à choisir tes coupons, tu vois.
En vrai, ça.
Genre, c'est beaucoup de temps de penser à l'argent et de penser à comment le dépenser de façon le plus raisonnable et la plus optimisée. Et moi, je me dis, bah, le temps, c'est de l'argent. Donc, tu perds de l'argent à réfléchir à comment optimiser ton argent. Tu vois, si tu passes 2 heures à dépenser moins de sous pendant tes courses, bah, c'est 2 heures, tu vois, où tu aurais pu genre, faire autre chose.
En vrai, ça va parce que ça dépend de... Enfin, moi, je suis pas, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'animal ou quoi. Du coup, c'est vraiment des dépenses pour une personne et je mange à peu près tout le temps la même chose. Du coup, ça va vite. Enfin, je sais que telle marque coûte moins cher, le prix au kilo, il est mieux celui-ci que celui-là. Et je vois une promo en tête de gondole, je regarde vite fait si c'est vraiment un truc intéressant ou pas. Et du coup, je fonce ou pas, tu vois.
Okay.
Et donc, c'est pas une grosse perte de temps.
Et quand tu dois acheter un truc, est-ce que t'es en mode je vais vraiment passer une semaine à être sûr d'avoir que j'ai le meilleur rapport qualité-prix, la meilleure affaire, ou est-ce que t'es en mode bon genre je sais pas, tu dois t'acheter un mixeur, tu vois, il te faut un mixeur pour faire des soupes, est-ce que t'es en mode je vais prendre le moins cher, est-ce que t'es en mode je vais prendre la marque
non je vais emprunter à quelqu'un qui en a un semblable, tester, voir si on a vraiment besoin et envie, et si je peux pas m'en passer, et après je vais l'acheter, tu vois, genre même par exemple j'ai pas de machine à raclette, j'emprunte ma machine à raclette à une pote, tu vois, ou à ma
en vrai il y a plein de trucs qui sont complètement cons à posséder, il y a les machines à raclette, les perceuses, il y a plein de trucs que tu utilises pas assez souvent, mais après
il y a des applis de location de ces trucs là
oui, et il y a même je sais qu'il y a des bibliothèques où il y a des bibliothèques d'objets où tu peux emprunter, et des assos qui font ça où tu peux emprunter, et puis même en vrai tu vois, moi dans ma résidence il y a un groupe WhatsApp pour les voisins qui veulent, pas moi du coup, car rappelez-vous je ne parle pas à mes voisins, mais mon mec est dessus, du coup quand j'ai un truc à demander aux voisins je lui dis va demander sur le groupe WhatsApp, moi je vais pas leur parler. Et bah du coup tu peux avoir, enfin vraiment je pense que dans l'immeuble, rien que dans mon immeuble, il doit exister 40 perceuses, tu vois, c'est complètement...
Mais oui, bien sûr, c'est absurde.
Oui, voilà.
Bah, je dis ça, j'ai acheté une perceuse parce que je ne veux pas parler à mes voisins. Je l'ai prêté à un pote au moins une fois, donc je me dis, voilà, c'est bon, elle a servi.
C'est un petit peu rentabilisé.
Vous savez à qui
et
demander.
En vrai, mon pote l'a acheté. Il a acheté la même, genre, et j'étais là, frère, vraiment, je peux te l'amener une nouvelle fois, c'est... mais bon. Des fois, on veut être autonome et avoir sa propre perceuse.
Bah, justement, j'assume totalement de demander de l'aide et des services et emprunter des choses à mes potes et à ma famille, tu vois. Et je peux le faire aussi. Et c'est assez simple et ça prend pas beaucoup de temps. Mais ce que je voulais dire, c'est mon kiff, c'est pas tant d'être radin que d'assumer d'être radin. Et en fait, ça m'amuse parfois que les gens se disent « Ah, mais t'as pas honte ?»
Oui, parce que
c'est comme... Non, j'ai pas honte
de faire attention à la thune, quoi.
Ouais,
parce que c'est un peu un truc de prolo, tu vois.
Bah,
je pense que c'est ça, c'est connoté comme ça dans la tête des gens. C'est quand tu regardes pas à la dépense, c'est que tu peux te le permettre.
Après, je pense
que tu regardes à la dépense, c'est que soit t'es pauvre, soit t'es hyper prêt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bah effectivement, et je pense que c'est plus facile à assumer pour moi parce que j'ai un travail qui me paye correctement et je suis en sécurité financière en réalité, donc c'est un luxe, enfin je suis très privilégié, je suis extrêmement privilégié, comme tu le disais tout à l'heure Mimi, je reçois plein de produits par exemple en tant que journaliste, pendant 2 secondes j'ai oublié pourquoi je travaille.
Waouh.
Ça m'arrive souvent.
Waouh.
Mais même je me rappelle une période de ma vie où j'essayais de trouver l'amour et du coup j'allais dans un bar d'hôtel qui s'appelait le Anka. Et à cette période-là, ils faisaient des psychosavoirs 2-for-1. Normalement, c'est pour que tu le partages avec quelqu'un, tu vois. Mais moi, je prenais 2-for-1 et je demandais « Non, mais me donnez pas le deuxième maintenant. Je le prends dans 1 heure parce que j'ai un autre date après.
» J'adore ton style.
Enfin bref, du coup, j'étais une personne
odieuse. Je vais prendre
les frites
à partager, mais donnez-moi la moitié des frites maintenant et la moitié des frites.
Vraiment, c'est absurde. Mais je dis ça dans une position ultra privilégiée. Je le reconnais totalement et c'est important.
Et en même temps, je sais, peut-être qu'il y a des gens qui me diront « je suis à côté de la plaque ». Je me dis, c'est cool que des gens qui ne sont pas dans le besoin participe à démocratiser plein de façons différentes d'optimiser ses dépenses et de mieux réfléchir, parce que comme ça, quand les gens dans le besoin le font, c'est moins connoté, tu vois. Genre, si Too Good To Go est utilisé un peu comme Emmaüs que par des gens ultra précaires, c'est hyper connoté, et il y a des gens qui vont avoir honte de l'utiliser, comme il y a des gens qui vont pas au Resto du Cœur alors qu'ils y auraient droit, parce que juste, ils ont honte, parce que c'est un truc de pauvre, tu vois, et qui veulent pas s'identifier dans « je suis tellement pauvre », alors que démocratiser ce genre de truc, il y a un pan un peu négatif où du coup, il y a des gens qui sont pas dans le besoin, qui vont peut-être, genre, trop en profiter, tu vois. Genre, si tu vas à Emmaüs et que tous les meubles, ils partent à des bobos et que toi, t'es là, en fait, moi, j'ai juste pas de thunes, j'ai pas d'alternative, je veux juste une table à 20 euros, tu vois, genre, c'est pas la peine de la prendre. Mais aussi, ça, je pense que rendre moins honteux, ce truc-là,
c'est pas
mal aussi. Enfin, moi, pour le coup, j'ai été beaucoup plus fauchée dans ma vie et beaucoup plus en galère et à compter mes sous. Et c'est pas agréable d'avoir honte de le faire, alors qu'en soi, tu vois, l'argent, c'est juste de l'argent. Enfin, c'est dire, là, actuellement, j'ai 100 euros pour tant de temps, donc je peux dépenser tant par jour. Ça devrait être factuel, tu vois, de dire, non, je vais pas faire ce resto parce que j'ai pas les moyens, ok. Ou je vais à Emmaüs parce que j'ai pas les moyens de m'acheter des meubles neufs. C'est juste un fait, tu vois, mathématique. Mais c'est connoté négativement. Donc, maybe le fait de l'assumer aide un peu.
Je sais pas, je pense que c'est vraiment un double tranchant, effectivement.
Oui, ça gentrifie un peu.
Parce que,
aussi, quoi.
Effectivement, ça gentrifie. Et en fait, si tous les Too Good To Go et tous les Emmaüs, il est pillé par des bobos, les personnes qui en ont le plus besoin n'y ont plus accès, quoi. Après, ces personnes-là, il y a une part d'entre elles qui n'osent pas y aller par honte sociale aussi. Donc, c'est effectivement un double tranchant. Effectivement, j'ai pas envie de retirer du pain de la bouche des gens qui en ont le plus besoin parce que je veux faire mon Too Good To Go et économiser 2 euros, tu vois.
Oui, je pense qu'à Paris, il y a vraiment assez de.
À Paris, ça va.
Too Good To Go pour que tu.
À Paris, ça va, clairement.
Ne prenne le croissant de la veille de la bouche de personne, quoi.
ouais, non, c'est n'importe quoi. Enfin, il y a tellement de gaspillage alimentaire, c'est délirant. Enfin, c'est même inquiétant, c'est alarmant, ça devrait même pas être légal en fait. Il y a trop de gaspillage alimentaire, et pas que alimentaire, mais l'alimentaire c'est le plus flagrant, alors que t'as des gens qui font la manche tous les jours à Paris par exemple, et partout ailleurs aussi. Hein, mais voilà, du coup, moi mon kiff, c'est assumer d'être rato.
J'adore.
Et juste, genre, en fait, j'adore voir la tête des gens se décomposer quand je dis non, mais moi c'est juste par radinerie en fait. Et voir des gens être choqués par ça, je suis là genre, en fait, pourquoi je devrais avoir honte, tu vois, de vouloir économiser mes sous et pas les claquer dans des bières cheap, quoi. Enfin, bon, mais no offense, la bière.
Mais aussi parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas tant radins et qui vont devenir comme tels, mais genre, juste pas généreux envers les autres, c'est, ou genre, quand c'est pour eux, ils vont moins compter leurs sous quand c'est pour offrir à quelqu'un d'autre. Et je pense que ça, c'est pas la même chose, tu vois. Ouais. Enfin, moi, je connais des gens comme ça,
radin,
où ils sont en mode, je suis prêt de mes sous, machin
avec
et tout.
Les autres, quoi.
Exactement, et t'es en mode, non, en fait, t'aimes juste pas offrir aux gens, tu vois, et c'est différent.
Je fais des cadeaux de ouf à mes
potes. C'est ça, t'en as déjà parlé plusieurs fois, c'est pour ça qu'il y a plusieurs versants à ça.
Ouais, mais en fait, je déteste dépenser de la thune pour moi-même, et surtout dans la bouffe, j'avoue.
Ouais, mais c'est un gouffre, la bouffe, en même temps.
Un podcast psychologique sur ton rapport à l'argent, vraiment, fais histoire d'argent, je veux savoir.
Voilà, non mais, je pense que c'est... Enfin, en vrai, je suis pas très smart avec l'argent, hein. Donc justement, c'est aussi des réflexes de personnes qui ont qui manquent d'éducation financière. Moi, en l'occurrence, je pense que c'est le cas, et aussi de la peur de prendre des risques en fait. Et du coup, je fais des choses hyper safe, soi-disant, et la peur de manquer, ce qui fait que en fait, tu restes, tu gagnes pas en confort financier non plus pour autant, quoi. Voilà.
Ma foi, c'était passionnant. Merci Anthony.
C'est un peu brouillon, mais...
J'aime toujours les discussions qui finissent par... J'aime bien choquer les gens en leur disant « Ouais, je suis radin. » C'est toujours un bon kiff. Merci Anthony. Et du coup, tu files quand tu veux, s'il y a besoin.
Ok, ça marche.
Aïda, c'est quoi ton kiff ?
Bonjour.
Bonjour.
J'ai changé 14 fois de kiff en l'espace de ces 10 dernières minutes. Mais c'est
trop
bon,
bien.
J'ai fixé mon kiff. Peut-être que je vais beaucoup parler et qu'il faudra que vous me disiez « Aïda, tais-toi maintenant, parce que ça va être brouillon de ouf. »
Jamais.
Je ne sais pas comment l'exprimer.
C'est « Laisse-moi kiffer », tu connais ou pas? Ça fait 210 ou 11 épisodes que c'est vaguement le bordel.
L'avantage, c'est que comme je vais parler de moi, j'aurai au moins 70% des infos.
Yes.
Mon kiff, cette semaine, c'est prendre des cours d'arabe.
My God,
oui.
Fais ça.
J'ai commencé
à faire
ça.
On va en parler, frère, j'ai fait 3 ans d'arabe à la fac.
Ah ouais.
Oh là là, ouais.
Et bah...
Peux-tu voir sur mon visage, c'est pas un moment de vie incroyable. J'ai juste fait ouais.
T'as vraiment pas l'air super contente d'avoir vécu ça. Peut-être.
C'était une vie de bolosse de 3 ans. La langue arabe m'a miskine, mais c'est pas grave. C'était
non, mais en plus je suis sûre qu'elle va me miskine aussi parce que j'ai fait un cours et vraiment j'étais là. Ah d'accord. Mais bref, toujours est-il que j'ai commencé ça la semaine dernière dans un endroit qui s'appelle le CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris. et c'est un peu intense parce que c'est des cours de 3 heures à 18 heures après la journée de travail.
Mais elle est ouf.
Donc c'est un peu en mode cours universitaire, il faut pas que tu sois absent et tout. Enfin voilà, il y a tout un truc. Mais je me suis dit, en vrai, s'il faut apprendre une langue difficile, après tout est relatif, mais en tout cas, une langue.
Pour moi, dès que tu changes d'alphabet, déjà c'est hyper difficile. Voilà, sauf si tu veux apprendre que l'arabe oral et que tu t'embêtes pas avec lire et écrire. Mais en vrai, rien que ça, apprendre un nouvel alphabet à 30 ans, c'est genre hyper dur, quoi.
C'est ça, apprendre un nouvel alphabet, un nouveau sens d'écriture, des nouvelles pratiques langagières. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont un peu difficiles dans l'absolu quand on est francophone, quoi. Et je me suis dit, allez, on va le faire à fond, on va y aller 3 heures par semaine, ça va être super. Et je suis très excitée de ça pour 2 raisons. La première raison, c'est que j'aime bien apprendre des langues vivantes. C'est la 7e langue vivante que j'apprends. Ça ne veut pas dire que c'est la 7e langue vivante que je parle.
La nuance est importante, bien sûr.
Les 3 ans de japonais au lycée ne m'ont servi à rien. À part
ton honnêteté t'honore néanmoins.
Excusez-moi d'être en retard. mais ouais, déjà, j'aime bien apprendre des langues étrangères. En vrai, j'en parle quand même quelques-unes parce que comme j'ai eu l'occasion d'un peu voyager dans ma vie, j'ai eu l'occasion d'apprendre des langues sur le tas.
Tu es citoyenne du monde. Quoi.
Et c'était super en tant que citoyenne du monde qui a écouté Trio au collège.
Je suis ravie de t'avoir fait dire en tant que citoyenne du monde.
En tant que meuf avec un poncho à rayures.
Je m'en conçois sponsor Nature et Découverte, putain.
Le titre est quelque part par là. Vous saurez.
Non mais voilà, j'aime bien apprendre des langues. Je trouve ça stimulant de ouf intellectuellement. J'ai l'impression que ça me rend plus intelligente, que ça me permet de, je sais pas, reboot un peu mon cerveau sur la construction des phrases, l'utilisation des mots et tout. Et juste apprendre des mots qui n'existent pas en français, c'est trop bien ça. Ton champ de pensée de beaucoup.
Et la langue arabe, il y a de quoi faire, quoi. C'est hyper poétique. Bah c'est hyper, fin, il se passe énormément de choses autour. On peut en faire plein de choses, quoi. C'est une langue avec laquelle on peut beaucoup jouer. Ce qui ne la rend pas plus simple, mais c'est intéressant.
C'est une langue qui est immense, qui a une histoire qui est très, très riche. Et du coup, j'ai trop hâte de pouvoir apprendre assez l'arabe pour pouvoir au moins naviguer un petit peu, lire un texte, essayer de comprendre ce qui s'y passe, lire 2-3 poèmes ou ce genre de choses, quoi. La deuxième raison pour laquelle je suis très très contente d'apprendre l'arabe, c'est un truc un peu plus personnel, un petit peu plus voyage d'Aïda Djoupa qui a eu 30 ans, qui est que...
Un peu plus petite étape de la vie, tu veux dire ?
Exactement.
Oh my god !
Ça sera 3 kiffs en 1, une lubie, une petite étape de la vie et un cours d'activité extrascolaire. Comme vous le savez probablement, puisque j'en parle quand même assez souvent dans le podcast, je suis en partie originaire d'Algérie. Ma famille côté maternelle est algérienne depuis plein de générations. Et j'ai grandi dans un bled paumé quelque part en France où être maghrébine, être arabe et tous les facteurs visibles d'arabité, c'était quelque chose qui était extrêmement mal perçu. C'était quelque chose qu'il fallait refouler au mieux, c'est-à-dire que refouler son arabité, je sais pas si ça fait sens de le...
En tout cas pas la mettre en avant.
L'exprimer quoi. Comme ça, mais ouais, pas
effacer
la mettre en avant.
Effacer et gommer tous les aspects de toi qui correspondent à cette origine et à cette culture maghrébine, quoi.
Exactement, et en sachant qu'en plus, il y a tout un imaginaire qui fantasme beaucoup ce que c'est qu'être maghrébine, particulièrement quand t'es une meuf.
Si vous ne le saviez pas, n'utilisez pas le terme beurette dans la liste, c'est un terme plutôt jamais. Très insultant. Ne faites pas ça, voilà. Et ne tapez pas beurette sur les sites porno, respectez
non plus. Wesh.
C'est un des termes les plus cherchés sur Pornhub en France. Voilà.
Ouais, car la France est un petit peu obsessed par justement ces marques d'arabité et le fait d'être maghrébin en France. On a une histoire coloniale qui est difficile et qui est longue et rarement expliquée correctement ni à l'école ni dans le reste des institutions.
Et récente. Quand on parle de l'Algérie par exemple, ça fait vraiment pas si longtemps par exemple la guerre d'Algérie quoi, qui était
exactement.
Une guerre quoi.
Et
95 la reconnaissance non?
Mais
par rapport à la guerre
dates,
les...
pourquoi tu me mets dans cette position où j'ai dit plutôt récente, c'est le niveau de précision que j'ai.
Désolée.
J'ai dit ça a fait moins de 100 ans.
Tu vois le bus Mimi, attention
quoi de bus ça, tu m'as jeté devant quoi.
Non mais je crois qu'en tout cas c'est genre une trentaine d'années avant la reconnaissance de dire ah c'était la guerre en Algérie et qu'après on a peut-être commencé à vaguement en parler, tu vois.
Avec des crimes de guerre qui
vaguement.
Ouais, on n'y est toujours pas quoi.
Non.
Et bref, donc voilà, j'ai grandi dans ce contexte-là de revendiquer une forme d'arabité, montrer avec fierté en fait les parties de soi qui sont reliées à cette culture. C'était quelque chose qui était inenvisageable à l'école, par exemple, où c'était un vecteur de discrimination qui était assez catastrophique, dans la vie sociale de manière générale, parce que c'était un truc dont il fallait avoir honte. C'est un truc dont j'ai l'impression que ma génération maintenant réussit à se défaire de plus en plus, mais c'est aussi quelque chose qui nous a été transmis par les générations d'avant. Moi, ma famille algérienne est arrivée en France à l'époque de ma grand-mère. Il y a eu tout un parcours d'assimilation assez violente où on a dit aux gens, enfin, de toute façon, c'était... c'était pas comme ça que pour les Algériens et pour les Maghrébins, c'était comme ça un peu pour tout le monde. Il y avait cette idée que bah, de toute façon, les enfants, il fallait leur apprendre le français parce que c'était la langue qu'il fallait parler et qu'il n'y avait pas besoin de parler sa langue d'origine. Il y avait une idée un petit peu de... Maintenant, vous êtes en France, vous êtes français et du coup, vous n'avez pas besoin...
comme les Romains.
Exactement. Vous n'avez pas besoin de mettre en avant d'autres particularités familiales, culturelles, historiques.
Alors que les Français expats, là, qui se disent pas immigrés, mais expats et qui font des fucking quartiers français à Shanghai où ils voient jamais un mec de Shanghai de leur vie et où ils mangent du pain, personne leur dit va falloir s'assimiler correctement à votre pays adoptif. Hein, mais bon. Mais bon.
Exactement. Et du coup, voilà, moi, ça a été un parcours assez long de me réapproprier cette arabité. Parce qu'on m'a dit toute ma vie, fais pas ça, le montre pas. Et aussi parce qu'en fait, c'est une stratégie de survie dans un monde où c'est quelque chose qui est hyper mal perçu et qui t'expose à plus de discrimination. En fait, le cacher autant que possible, et notamment pas parler l'arabe, en fait, ça fait partie des choses qui te permettent de te distinguer un petit peu en disant, moi je parle pas arabe, je suis bien intégrée en fait.
Moderne et intégrée, moi je suis
exactement,
française. Quoi.
Je suis bien intégrée,
non seulement tu parles pas arabe et t'as honte quand ta famille parle arabe devant les gens. Bon, je sais pas si t'avais ça, mais moi j'avais vraiment, quand j'avais genre mes tantes ou ma mère ou quoi qui parlaient arabe devant des proches, enfin pas des proches justement, mais des gens de l'école ou je sais pas quoi, il y avait un truc de honte, de je sais que c'est mal vu, tu vois, genre, mais c'est hyper diffus, c'est hyper inconscient, surtout quand t'es gamin. Mais il y avait ce truc de c'est pas. Alors que mes copines qui avaient des parents qui parlaient anglais, tu vois, c'était genre cool de parler anglais. Parler arabe, c'était pas cool. Et du coup, c'était genre pourquoi elle est pas comme les autres darons, tu vois, pourquoi elle parle arabe alors que c'est complètement con. Elle est maxi bilingue. C'est hyper cool.
Bah ouais, c'est un peu ça. Moi, je l'ai pas vécu directement parce que c'est. Un truc, enfin bref, c'est une difficulté familiale qui vient au point que en fait personne parle arabe dans ma famille.
Ah ouais, ok, oui. Oui. Quand on va plus loin, ce problème-là ne se pose plus, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment, il y a vraiment eu un truc d'assimilation totale en mode on est français maintenant et c'est ok parce que ça a été le choix qu'ont fait mes grands-parents et que la génération de mes parents ont pu faire. Moi, c'est pas le choix que j'ai envie de faire maintenant. Aïda de 30 ans, elle a envie de parler l'arabe, elle a envie de comprendre les références culturelles qu'on m'a transmises de manière non orale, parce qu'en fait, t'as beau essayer de gommer toutes les particularités de ton identité qui viennent d'ailleurs, en fait, on te les transmet quand même, et juste, tu te rends pas compte que c'est un truc très algérien de parler de certaines choses ou de pas parler d'autres choses, tu te rends pas compte que c'est un truc très maghrébin d'écouter tel type de musique ou de manger tel type de plat, parce qu'on te dit pas que c'est un truc lié à ta culture, on te dit juste, nous on fait ça, c'est comme ça. Et en fait, c'est hyper, hyper libérateur et hyper enthousiasmant de se dire maintenant, j'ai envie de me réapproprier cette part de mon identité. Et en plus, le vecteur de la langue, c'est un truc qui permet aussi de faire communauté avec non seulement les gens qui sont en France et qui ont le même vécu que toi, mais aussi les gens qui n'ont pas le même vécu parce que c'est des Algériens d'Algérie, tu vois. C'est un moyen de communiquer avec plein de gens qui... ont des racines communes avec moi. Je sais pas encore comment ces choses-là elles se transmettent parce que vu que je parle pas l'arabe, je passe à côté de la moitié de ma culture, quoi. Et voilà, j'ai trop hâte. Je suis hyper contente d'aller à mes petits cours le mercredi. En plus, j'y vais avec un pote à moi. Du coup, je sais que je vais pas arrêter parce que sinon, il me tapera sur la tête en me disant « Maman, tu viens à l'école !» Et voilà, c'est un peu... c'est une petite étape de la vie que je trouve assez cool.
C'est une belle étape de la vie.
C'est trop bien de pouvoir faire ça. On verra ce que ça donne.
Et de conscientiser, tu vois. Je trouve que c'est ça aussi, c'est que... C'est-à-dire, à un moment, notre génération commence un peu à se défaire de cette honte de l'arabité ou d'autres choses, tu vois. J'imagine que peut-être qu'il y a pareil aussi pour des gens qui viennent des Antilles. Enfin, dès que t'as une culture qui n'est pas occidentale, en fait, tu vois. Et encore, tu vois, sûrement que les Polonais, ils se faisaient aussi moquer un peu parce qu'ils mangeaient des trucs différents ou quoi. Mais encore plus quand tu viens d'une culture qui est vue comme inférieure. Je pense que non seulement on a la chance de lever un petit peu pour certains d'entre nous ces tabous et ces hontes intériorisées, mais aussi de les conscientiser, tu vois. Et je sais que moi, c'était il y a genre 5 ans que j'ai vu les premiers articles sur la honte de parler arabe et la honte de quand ta famille parle arabe et tout, et j'étais en mode « Waouh ! Waouh ! Ouais !» En fait, j'y avais jamais pensé et je l'avais jamais conscientisé, et c'est tellement, justement, c'est tellement une honte, et j'ai aussi pas tant de gens dans ma vie qui sont aussi d'origine maghrébine, mais... enfin, et en même temps, oui et non, tu vois, genre ma meilleure pote Soraya, elle est aussi à moitié marocaine, j'ai bossé avec toi, j'ai bossé avec plein de gens de plein d'origines différentes chez MAD et tout. Mais on n'avait pas eu cette discussion, même avec mes sœurs, tout simplement, de la honte de cette partie de nos racines et de notre culture qu'on nous a appris à voir comme inférieure, tu vois. Donc ça fait pas si longtemps qu'on peut le conscientiser, mais du coup, quand on en prend conscience, bah, on peut agir dessus, et c'est trop cool. Et je suis trop contente que dans Laisse-moi kiffer, on puisse parler à la fois de plats traditionnels des Antilles, et de se reconnecter à son arabité, et de parler de théâtre, et de parler juste de plein de facettes de la vie qui... J'ai donné des cours la semaine dernière à des futurs journalistes et communicants et communicantes sur les responsabilités d'avoir une boîte et, ou un média qui a des valeurs et qui se présente comme engagé. Et il y avait notamment la représentation et la diversité en interne, pas juste envoyer au monde « ouais, la diversité, c'est trop bien », mais que ça se voit aussi en interne. Et j'ai vraiment pris le temps de leur expliquer, c'est pas une histoire de quota, c'est pas juste pour que si quelqu'un va voir votre trompie d'entreprise, il puisse pas dire « vous êtes contre Babtou », c'est parce que les identités différentes des gens vont vous apporter des compétences et des choses uniques que en fait, vous n'aurez pas si vous ne travaillez pas avec une diversité de gens. Quoi. C'est hyper précieux, ce n'est pas juste pour faire bien. Et je trouve que c'est hyper précieux d'avoir ces discussions dans Laisse-moi kiffer et que c'est trop bien. Je suis contente qu'on ait cette discussion. Ça me touche. Voilà.
Mais d'autant plus que c'est une conversation... Enfin, j'ai vraiment réfléchi 10 000 fois avant de me dire que j'allais faire ce kiff aujourd'hui. Je pense que c'est pas des sujets qui sont faciles à avoir quel que soit l'espace. Moi je suis hyper contente de pouvoir en parler avec vous et je savais que ça allait résonner un petit peu, que ça pouvait aussi parler à des gens qui allaient écouter le podcast parce qu'en vrai, comme tu le dis, c'est pas des sujets qu'on aborde depuis très longtemps, c'est pas des sujets qu'on aborde partout. Moi pendant longtemps, les seuls espaces de lecture par exemple sur les questions d'arabité quand on est descendant d'immigrés, particulièrement descendants d'immigrés algériens, parce qu'en fait, l'Algérie, c'est une histoire coloniale hyper particulière et hyper traumatique pour plein de familles, quoi. Les seuls endroits où je pouvais entendre parler de ça, c'était des endroits qui étaient spécialisés et que du coup, il fallait que j'aille chercher parce que j'avais accès à certains types de recherches, à certains types de trucs. Je pouvais lire en anglais, enfin bref. Et du coup, je suis super contente de pouvoir en parler dans LMK en me disant « Ah bah trop bien, peut-être que ça va résonner pour quelqu'un qui vit la même chose ou une version différente de ce truc-là ». Et pour autant, ça reste un sujet de conversation qui n'est pas facile. Du coup, désolée si j'étais un peu brouillon sur ce kiff. Mais
c'était super.
C'était brillant.
Ça valait le coup d'en parler, je pense.
C'était hyper intéressant et hyper émouvant aussi. Et très puissant. Et bravo de prendre ces cours, c'est trop cool.
Merci. C'est une grande difficulté et j'espère que ça va arriver à quelque chose. Mais on verra, je vous tiendrai au courant de si c'était une lubie qui a duré 3 semaines et si j'ai fait un grand kiff sur la puissance de se reconnecter à ses racines opprimées ou si ça a duré 1 seconde et si j'ai arrêté.
Écoute, on va attendre...
C'est le geste qui compte, c'est
exactement.
L'intention.
On va attendre un futur Laisse-moi kiffer pour que je digresse sur mes propres cours d'arabe parce que cet épisode est déjà un petit peu long et
pardon,
un petit peu
j'ai
pressé par le temps, il n'y a pas de problème. Oui, tu diras, je finis et tu dis au revoir comme ça, les gens sauront pourquoi t'es pas là pour la Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que je retourne bientôt au Maroc. Donc, j'aurai sûrement plein de choses à raconter sur mon arabité personnelle. Et ce sera peut-être l'occasion de raconter le jour où j'ai essayé d'apprendre l'arabe. Sachez quand même, pour pas que vous attendiez à grand-chose, que c'est clairement une vie de bolosse. Hein. On est sur un échec. Je ne parle toujours pas vraiment arabe. Mais je l'ai fait pour un peu les mêmes raisons que toi. Et du coup, ce sera intéressant d'en parler. Voilà. Mais je ne te décourage pas. C'est aussi moi qui n'ai pas trop bossé. Je ne me suis pas trop sorti les doigts.
Non, mais puis ça a l'air hyper dur. Mais bon, tout ce que j'apprendrai sera bon à apprendre. Ce sera pas perdu. Quoi.
Oui, clairement. Anthony, tu dis bye bye.
Oui, je dois filer.
Bisous.
Bye bye Anthony. Je vous abandonne pour la fin de cet épisode, mais il revient très vite.
Je reviens très vite. Bisous les LMK.
Bisous.
Merci Aïda.
Merci beaucoup.
On adore les petites étapes de la vie. En plus, je me disais en venant, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite étape de la vie. Du coup, trop bien.
C'est fait.
Mathis, c'est quoi ton kiff ?
C'est terrible de passer après Aïda. C'est terrible de passer après Anthony. Vous avez tous les deux été très intéressants et très éloquents et éloquentes.
Tu l'es toujours aussi, Mathis.
Nia, 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 c'est brouillon, pardon. J'ai juste fait des puces argumentées sur un kiff qui est à la fois touchant, intéressant, historique. C'est pénible. Vous m'énervez. Mon kiff, il est débile, mais je vais vous parler un peu de mon travail. Il y a un truc que j'aime bien faire et que je n'ai pas trop l'occasion de faire. Et du coup, je réalise que c'est un truc que j'aime vraiment bien faire maintenant que j'ai un peu moins de temps de le faire.
Les podcasts ?
Alors, les podcasts, j'en fais. Non, ça fait 14 000 ans que je le fais sans trop m'en rendre compte. Mais du coup, donc, en gros, donc, moi, je suis chargé des podcasts ici, en alternance. En CDI, on vous l'a annoncé à partir de novembre.
Bravo, Mathis.
Welcome.
Voilà. D'où la pause en octobre qui, peut-être, et avant cet épisode, peut-être après, on ne sait pas, on verra.
Vraiment, c'est le multiverse LMK.
De ouf. Et du coup, bah, là, je suis beaucoup chargé de travail par un projet brand qui va parler de rugby et que vous pouvez écouter, je pense, quel que soit le moment où va sortir cet épisode, vous pouvez déjà écouter les premiers.
Qui va parler de...
De rugby.
Et non pas de ton chien.
Et non pas de mon chien.
J'ai entendu rugby. Entendu. On a un podcast brand sur rugby, c'est incroyable comme projet.
J'adorerais ça. Même si je la déteste aujourd'hui parce que j'ai marché dans son caca, je le rappelle.
Remember.
Putain, premier truc que j'ai fait en me descendant ma mezzanine, c'était horrible.
Adoptez quand même.
Adoptez quand même.
Prenez un chat.
Prenez un chat.
Ça marche aussi.
Prenez un chien qui chie peu, je sais pas.
On vous emmène à la rencontre de l'équipe de France de rugby féminin, au plus près des Bleus, en toute intimité. Vous avez déjà entendu parler de cette équipe ? Est-ce que vous connaissez ces joueuses ? Vous savez pourquoi ce sont elles qui représentent la France ? Depuis 3 ans, j'ai la chance de couvrir chacune des rencontres internationales de l'équipe de France de rugby. Et je vous garantis qu'il y a tellement de choses à dire sur cette équipe. J'ai hâte de vous faire plonger dans l'univers 15 de France. Allez, on y va.
Je crois qu'au départ, on était des joueuses, mais on était quand même des femmes de caractère.
La future génération qui est arrivée allait aussi faire briller la France, faire briller la fédération.
Ça nous a à chaque fois permis de créer encore plus de liens. Quoi qu'il se passait, on était ensemble.
Vous écoutez Humble et Engagé, un podcast de Mademoiselle et de la Fédération Française de Rugby.
Toujours est-il que du coup, ce podcast Humble et Engagé avec la Fédération Française de Rugby Féminin, il est très chouette, mais du coup, c'est assez exigeant parce que c'est beaucoup de temps de montage. Il faut rappeler aussi que je fais la musique de tous les podcasts de chez Mademoiselle. Alors, quand c'est Le Seul Avis qui Compte, je fais un petit générique. Et pour le reste, je vais chercher les musiques clichés dans les banques de sons auxquelles on a accès parce que bah, on cherche volontairement des choses très kitsch, etc. Mais quand j'essaie de faire un podcast avec toute une esthétique sonore cohérente, etc., bon, bah voilà, ça fait du travail en plus. Et là, c'est le cas avec la Fédération Française de Rugby. Ce qui fait que j'ai moins de temps de me consacrer aux réseaux sociaux de Laisse-moi kiffer. Alors, il faut savoir que avant d'être chez Mademoiselle, j'étais chez Binge Audio. Binge Audio, c'est ceux qui produisent Les Couilles sur la Table, Le Cœur sur la Table, Programme B, beaucoup de trucs sur la table globalement. À bientôt de te revoir. Mais là-bas, j'étais chargé des réseaux sociaux. Ce qui était une vraie frustration parce que Mimi est en train de faire un cœur sur son siège.
Oh, c'est trop mignon.
Dans le siège en velours, vous voyez, on peut écrire un peu dessus comme dans les sequins. Bah, du coup, j'ai fait un cœur.
C'est très mignon. Et du coup, bah, là-bas, en fait, j'ai été vraiment chargé des réseaux sociaux et c'était un peu frustrant parce que j'avais envie de tripoter un peu les trucs. Mais en fait, Binge, c'est réparti vraiment entre des corps de métier et les gens qui font globalement ce qui est le cœur de mon métier là, ici chez Mademoiselle, bah, ils étaient formés, ingénieurs du son, très compétents, réalisateurs, etc. Et moi, j'arrive vraiment en mode je suis Claude Legueux. Et bon, bah, on arrive quand même à faire des choses chouettes, on bricole, mais c'est marrant. Et du coup, bah, les réseaux sociaux, là, ça fait quelques semaines que je peux moins les gérer parce que bah, c'est un peu une variable d'ajustement par la force des choses. Parce que tout simplement, si j'ai moins le temps de faire des montages à la con, bah, j'ai moins le temps de faire des montages à la con. Et vous avez peut-être remarqué depuis que je suis arrivé chez Mademoiselle que la page LMK Instagram, si vous ne la suivez pas, allez la suivre, a un petit peu changé. Tout simplement parce que... Bah, on a essayé d'avoir une vraie stratégie là-dessus qui était en concertation avec Anna,
social media manager de talent chez Mademoiselle.
Et qui du coup m'a conseillé pas mal sur ce qu'on pouvait faire sur Laisse-moi kiffer. Ça a été aussi vu avec Audrey qui est notre graphiste. Donc voilà, on a eu tout un truc de réflexion là-dessus et ça a mis en place des choses assez sympas. On a essayé d'être le plus interactif possible parce que c'est aussi pour moi ce qui fait un peu le cœur de ce podcast. C'est-à-dire le fait que vous participiez directement, qu'il y ait des rubriques où vous intervenez. Et je trouve ça trop chouette et rare et précieux. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut qu'on mette ça en valeur aussi sur nos réseaux sociaux comme Alix le faisait déjà avec les mèmes qu'elle vous demandait de faire.
Mais
voilà.
Oui, les mèmes.
Mais oui.
Refaites des mèmes.
Ben ouais,
c'est
et comme
ça
on a...
fait longtemps.
Ben oui, mais comme on n'a pas beaucoup de mèmes, du coup, c'est compliqué. Donc voilà, j'ai essayé de trouver des stratégies pour diversifier au maximum et que chaque semaine, on ne vous propose pas la même chose. J'ai aussi commencé à faire des kiffs un peu en natif où j'ai essayé de me filmer, à essayer de vous parler de petits trucs que j'avais pas le temps de caler dans des Laisse-moi kiffer parce qu'à chaque fois, j'arrive à un épisode et je suis en mode j'ai 14 kiffs, je ne sais pas lequel choisir. Sauf certaines semaines où je suis grognon et j'aime pas. Dans la vie. Mais voilà, du coup j'étais content de partager tout ça. Enfin, on dirait que je vais partir et mourir, mais j'ai été content de faire tout ça. Et là, je me rends compte que ça me manque ces dernières semaines parce que j'ai moins le temps de le faire. Mais voilà, les stories débiles, les montages, les trucs en interaction avec vous. Donc continuez d'interagir avec les contenus, continuez d'y répondre, de les partager si ça vous parle. C'est toujours très chouette. Si vous avez des conseils, des idées, allez-y parce
des
que
envies,
c'est aussi comme ça que ce podcast. Non, mais c'est aussi comme ça que le podcast est évolué en vrai, c'est parce qu'il y a des gens qui ont suggéré
des LM Cœur et des LM Crado et des randoms je sais pas, genre bafouillages que nous on a pas remarqué et qui sont devenus un mème parce que juste les gens sont bêtes et qu'on adore. Je vous le dis avec beaucoup d'amour, genre idiot, c'est un de mes adjectifs préférés pour définir les gens que j'aime, c'est ah, il est idiot. Mon type d'homme par exemple, c'est idiot. Vraiment, c'est le point commun entre tous mes gars, c'est que c'est des bons cons. Je les aime.
Incroyable.
Donc je vous aime aussi les bons cons et les bonnes connes des LM Cœur.
Donc voilà, c'est un kiff qui est un peu rapide. En vrai, j'ai pas énormément de choses à élaborer là-dessus, sinon que bah c'est ouf d'avoir une liberté comme ça à 23 ans en alternance dans un média, du point de vue création de podcast, du point de vue création musicale, mais du coup aussi du point de vue réseaux sociaux où on m'a quand même laissé faire un montage où j'ai foutu Aïda, enfin Aïda, une personne de banque d'images qui était censée représenter Aïda en train de faire du yoga devant une espèce de station d'épuration avec Gérald Darmanin, une seringue et un rat mort par terre. Il n'y a pas beaucoup de taf.
Tu as été rémunéré.
Il n'y a pas beaucoup de taf que je connais où on dit vas-y, fonce, c'est trop bien.
Ouais, go, ouais.
Où ça fait rire en plus les gens. Genre, oui. Moi je pensais que ça ferait rire que moi, mais là, Coralie, enfin Anna. Anna, elle était vraiment, mais t'es débile, quoi. Enfin,
bien sûr, t'es débile, ça m'a fait beaucoup rire. Écoute, c'est cool aussi de parler d'accomplissement par le travail, tu vois. On a beau être un podcast ultra-gauche, il y a aussi des choses cool d'en faire des choses et être fier de ce qu'on fait, surtout quand ça implique parler à des gens aussi cool que les LM Cœur.
Mm-hmm.
J'aime et puis, un peu bien LM Cœur, je crois.
J'aime beaucoup LM Cœur. J'aime bien LM Caribou aussi, c'est rigolo, mais c'est une blague que je ferai plus souvent en rentrant de Montréal où je vais m'inventer une nouvelle personnalité pendant 2 semaines.
Ah ouais, tu le diras avec l'accent et tout.
Non, clairement pas, je suis pas cette personne.
Tu dis ça, mais je pense que ça, tu sais, ça va revenir au chassé
naturel.
J'ai bien
pouvoir
t'en empêcher.
C'est Alix, je vais pas lui voler ce c'est son terrain.
Elle n'a pas inventé l'accent québécois néanmoins.
Elle a inventé.
Les personnes québécoises existent par exemple.
Non, mais je veux dire, c'est elle.
C'est sa chasse gardée dans
voilà,
LMK.
Dans LMK, c'est son terrain.
Tout à fait.
Moi, mon terrain, c'est les jeux de mots pétés et.
Et les montages sur Instagram.
Et les montages Instagram pétés également.
Tout à fait. Abonnez-vous à l'Instagram de Atlas-moi kiffer, ça fera très plaisir à Mathis et vous pourrez lui faire du feedback, voire des
exigences. Des exigences.
Et surtout lui envoyer des mèmes. Envoyez-nous des mèmes s'il vous plaît, c'est ma passion.
Oui, envoyez des mèmes, c'est
ça
incroyable.
Ça me rendrait si heureuse.
C'est très rigolo.
Alright, mon kiff.
Et toi, Mimi?
Oui.
J'ai hésité parce que vous le savez, on est dans une de mes périodes préférées de la vie, de l'année, puisqu'on est à la rentrée, on est en automne. C'est ma première rentrée en Indé, donc il y a plein de choses à en dire et tout. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Et je me suis rendu compte, je crois que je n'ai jamais fait de ma vie de kiff sur les champignons. Alors que c'est genre
attends,
ma passion numéro uno, dos et tres.
Non.
Je crois que je n'ai jamais fait de kiff sur pourquoi j'aime autant les champignons. J'ai parlé de bouffe aux champignons. Je n'ai pas caché ma passion pour les champignons. Et je commence à avoir saturé l'esprit de ma commu au point où les gens m'envoient et me taguent sur des trucs de champignons et m'en envoient en DM parce que ça leur fait penser à moi. Donc c'est bien, continuez, ça me rend très heureuse. Mon internet est mieux grâce à vous. Et même si des fois j'ai déjà vu les trucs, c'est pas grave, je suis contente de les revoir. Mais je crois pas que j'ai fait un gros kiff sur les champignons. Parfois, je dis ça et en fait, vous me dites, tu l'as déjà fait. Ben, c'est pas grave, ça fait 211 épisodes que je suis là. Il y en a qui n'étaient pas là, je vais vous en parler différemment. Dolores Claiborne, ça a cartonné alors que peut-être il y avait déjà eu un kiff dessus il y a quelques années. Donc, on va parler champignons. Parce qu'en fait, les champignons, donc déjà, c'est trop cool parce qu'il y en a plein des différents et je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui est plus satisfaisant que de voir genre un étal de champignons avec toutes les couleurs et les formes. C'est un peu comme les poissons, quoi. Il y en a tellement des différents, c'est magique. Bon, vous me direz les fruits et légumes aussi, mais j'adore les fruits et légumes aussi, mais les champignons un peu plus.
Il n'y a pas autant de variétés de poires que de variétés de champignons.
Oui, non, voilà, c'est dans les fruits, il y en a un milliard. Dans les pommes, bon, une pomme, il y a des variations, mais ça reste une pomme. Alors que
c'est comme les dogos.
Voilà, les champignons, c'est comme les dogos. Mmh. Et on en parlera, c'est parce que les champignons ne sont pas vraiment des plantes. Du coup, je trouve que déjà, ça fait partie de ce que la nature propose de hyper intéressant en termes de variété de formes et de couleurs, et aussi d'effets, puisqu'il y a à la fois des trucs délicieux, des trucs mortels, des trucs qui te font planer, des trucs qui peuvent... Vous savez qu'il y a un champi qui rend les fourmis zombies, qui les force à mourir et qui pousse dans leur crâne. Genre, c'est un vrai truc. Il y a un type de fungi qui rentre, c'est des spores qui rentrent dans le cerveau des fourmis, qui les obligent à se déplacer jusqu'à un endroit pertinent pour eux pour vivre, qui font mourir la fourmi et après ils poussent dans le crâne desséché de la fourmi. J'enverrai un lien à Mathis pour qu'il le mette dans la description.
Non,
ça me fascine en même temps.
C'est la même famille vivante que genre des girolles. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, déjà, les champignons sont d'une variété incroyable, à la fois dans leur dégaine, dans leur taille, mais dans la façon dont où est-ce qu'ils poussent et tout. Puisque je pense que dans tous les endroits du monde, quasiment, sauf bien sûr la banquise, il y a, ou le désert du Sahara, il y a des champignons qui poussent. Dès qu'il y a un peu d'humidité, ils sont là. Ok, let's go, ounce les champignons. Et aussi, on en a en nous, puisque la flore bactériale, tout ça.
Ça peut être notre jingle, ounce les champignons.
Ounce les champignons. C'était les champignons quand ils sont contents de pousser. Vous pouvez en faire un gif animé si vous le souhaitez.
Oui.
Ou un remix dubstep, je ne sais pas. Un
si
remix gabber de Ounce les champignons. Un jingle, ça sera un jingle. Si vous voulez. Écoutez, n'hésitez pas, je vous le donne. Je vous donne l'extrait sonore.
C'est clairement ce que je vais faire comme poste à partir de cet épisode.
Ah, j'ai hâte. J'en étais où ? Oui, donc ça pousse un petit peu partout dans le monde. Ounce et champi.
Et voilà, vu qu'il y en avait à l'intérieur de nous et ça m'a dégoûté.
Oui, il y en a à l'intérieur de nous aussi, puisqu'en soi, le moisi, c'est des champignons. On a des champignons dans notre estomac, dans notre vagin, dans plein d'endroits de notre corps, quoi. Mais des champignons sains. Ça peut à la fois nous tuer, mais ça fait partie du vivant et tout. Donc ça, c'est la partie, c'est déjà hyper intriguant comme être vivant. Et encore plus que la variété, en fait, les champis, c'est pas des animaux et c'est pas des plantes, c'est son propre c'est son propre type. Et il n'y a pas grand-chose qui fonctionne comme les champignons, c'est pour ça que c'est sa propre espèce du vivant. Puisque ça marche pas avec des racines, mais avec le mycélium, qui est ce genre de filaments blancs immenses qui, en fait, sont sous la terre et qu'on voit pas, mais qui sont le système nerveux, mais aussi la vie des champis. Et ce qu'on voit, nous, qui dépasse, c'est juste une forme de fruit d'excroissance, mais c'est pas tout le champignon. Ça a plein d'effets différents et ça, par exemple, ça marche pas par photosynthèse, les champis, ça a pas besoin de ça métabolise pas la lumière du soleil comme les plantes pour vivre, c'est vraiment un truc à part. Et il y a, alors j'ai retrouvé, il y avait un post qui avait cartonné sur internet, du coup je l'ai retrouvé pour vous grâce à mes skills en Google, d'une personne qui s'appelle Hyperactive Hedgehog, donc hérisson hyperactif, que j'adore, qui dit: j'étudie les biotechnologies et chaque fois que quelqu'un parle des champignons, mon professeur prend un air à la fois extrêmement excité et extrêmement peiné et dit: écoutez, les champignons ne sont pas des plantes, ni des animaux, ni quelque part entre les deux. Ils échappent à toute tentative de les catégoriser. Nous ne savons pas vraiment ce qu'ils sont. Certains sont immortels. Certains produisent des substances qui peuvent littéralement sauver des vies. Certains sont si proches des humains que si on les mange, on peut avoir une réaction allergique à notre propre corps. Je ne peux pas vous enseigner tout ce qu'il y a à savoir sur les champignons, car on ne sait pas tout ce qu'il y a à savoir sur les champignons. Et c'est ouf, quoi.
On dirait une bande-annonce.
Teaser. Et après, attends, mais il faudrait grave faire des films post-apo ou des trucs de SF avec des champis, tu vois. Les champis, c'est genre aussi mystérieux que les fonds marins. Sauf que c'est partout autour de nous, mais ça fait vraiment des trucs qui sont... C'est de la SF, quoi. C'est trop bizarre, les champignons, en termes d'organismes vivants, pluricellulaires, qui a un milliard de façons différentes d'exister, et dont, je crois, on ne connaît pas, on comprend pas encore 100% de ce qui fait la champivie, et il me semble que c'est en partie pour ça que c'est
la
aussi
champivie.
Compliqué. Donc, c'est un terme technique.
Et c'est incroyable que tu me dis ça, vraiment, les yeux dans les yeux. On ne sait pas encore, à ce jour, ce qui fait la champivie.
Les scientifiques s'interrogent sur la champivie, ce champ d'étude des champignons. Vous l'aviez, bien sûr, chez vous. C'est compliqué à faire pousser de façon industrielle, donc il y a aussi un côté, c'est rare et tout. Quand tu vois le prix au gilo des morilles, t'es là, ah, d'accord, bah oui, c'est pas les champignons de Paris. Et en même temps, il y en a qu'on peut littéralement faire pousser chez soi dans du marc de café, quoi. Enfin, bon, c'est fascinant, les champignons. Et bien sûr, il y a l'aspect gastronomique où les champignons, non seulement on peut faire plein de choses avec, puisqu'on peut les utiliser entiers, ça peut remplacer de la viande, ça peut remplacer des légumes, ça peut faire le fond d'une sauce, ça peut aller dans de la nourriture où ils seront tellement mixer et modifier qu'on ne saura même plus qu'il y a des champignons dedans, mais ça va forcément apporter quelque chose. Ça peut être en sauce, ça peut être cru, ça peut être énormément de choses, du coup c'est très versatile comme ingrédient. Et ça apporte souvent cette fameuse, ce qu'on appelle la cinquième saveur, donc il y a le sucré, le salé, l'acide et l'amer, c'est les saveurs principales. Et il y a une cinquième saveur qui est l'umami, c'est un terme japonais, umami, qui est un peu indescriptible, c'est un mélange de salé, de vinaigré, d'acide, ça en gros ça apporte quelque chose, une profondeur et une nuance à des plats, et ça lie les saveurs d'une façon un petit peu spécifique. Et ça se trouve par exemple beaucoup dans les tomates, beaucoup dans le glutamate de sodium qu'on retrouve énormément notamment dans la cuisine chinoise. Si vous avez un rapport un petit peu addictif à la nourriture asiatique de type chinoise, vietnamienne, etc., c'est souvent parce qu'il y a beaucoup de glutamate et que c'est pas du tout, enfin de sodium, c'est pas du tout dangereux pour la santé, mais c'est vachement bon et ça a un côté, un goût de reviens-y. Et il y a beaucoup d'umami dans les champignons aussi, du coup c'est aussi pour ça que parfois on va les utiliser dans des plats où on va plus du tout sentir leur goût, mais ils vont apporter cette umami et cette richesse au plat juste en étant des champis. Et en plus, c'est mignon et c'est fun. Et genre, on peut dessiner des champis mignons et des champis rigolos et des champis bonhommes et des champis animaux et c'est super. Du coup, voilà, toutes les raisons pour lesquelles les champis, c'est mon gros kiff toute la vie. C'est la meilleure chose. Je suis ravie.
En vrai, j'avais jamais réfléchi au fait que, effectivement, les champignons, c'est un truc aussi mystérieux que typiquement les fonds marins ou les écosystèmes qui sont dans des endroits qui sont mystérieux principalement parce qu'ils nous sont inaccessibles. Mm. Sauf qu'en fait, les champignons, c'est hyper accessible. En fait, c'est...
Tout à fait.
On peut les regarder partout et c'est quand même mystérieux, quoi.
Et je vous le dis parce que je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas. Si jamais, vu que c'est la saison, en plus, vous allez aux champignons et vous récoltez des champignons, vous n'êtes pas sûr est-ce qu'ils sont comestibles ou pas. Normalement, toutes les personnes qui font pharma sont formées à reconnaître les champignons comestibles ou pas, ou à minima si elles ont oublié un petit peu leur cours de quoi vous indiquer. Donc normalement, vous pouvez les amener dans n'importe quelle pharmacie avant de prendre le risque de les consommer et demander au pharmacien ou à la pharmacienne est-ce que je peux manger ces champignons ou est-ce que je vais passer un mauvais moment. Donc si jamais, normalement, c'est facile d'avoir, ou plutôt que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent sur internet, genre qui postent une photo en mode est-ce que je peux manger ça, c'est toujours plus safe d'aller demander à quelqu'un qui s'y connaît de vrai et qui a eu des cours là-dessus. Car les champignons peuvent vous tuer. Donc, ouais, vous faire planer longtemps sans que vous soyez prêt, ce qui n'est pas une bonne idée. Et si vous êtes en bagnole, par exemple, ça peut vous tuer aussi à la fin. Du coup, non, on ne fait pas ça.
Ouais, et puis les applications qui vous disent quel type de champignon c'est en envoyant une photo, ça ne marche pas hyper bien non plus.
Franchement, je ne vois pas pourquoi vous prendriez ce risque-là. Je ne vois pas l'intérêt, je ne comprends pas ce qui pourrait vous
mener.
Si tu ne
veux pas les
manger,
c'est marrant de juste pouvoir identifier un truc qui pousse sans avoir à l'arracher.
Bien sûr. Mais si tu finis par consommer l'aliment, faites un petit détour par la pharmacie.
Ça ne marche pas.
Et vous aurez au moins quelqu'un à blâmer si jamais elle avait tort. Voilà, ça aide. Voilà, les champis, c'est super. Les champis, c'est la vie. Merci à la magie des champis.
Est-ce que tu as des recommandations, genre documentaires, podcasts, trucs à regarder si on a envie d'en savoir plus sur les champignons?
Pas du tout. Attends, non, je tiens 120% de mes informations de Reddit et d'obscure page Wikipédia sur laquelle j'ai zoné. Mais c'est pas impossible. Alors, je pense que du côté de National Geographic ou de la BBC, c'est quasi sûr qu'il doit y avoir un docu, genre la vie cachée des champignons, tu vois, un truc comme ça. Peut-être que sur Netflix, c'est un truc parce qu'ils font beaucoup de documentaires nature qui sont très, très quali, avec notamment des caméras hyper tight qui font genre où tu peux voir les spores des champignons qui sont libérés dans la forêt et tout, alors que c'est quasi invisible à l'œil nu normalement. Et par contre, j'ai une vidéo sur cette histoire de champi qui rend les fourmis zombies. On la mettra dans les notes du podcast.
Oui, celle-ci, elle me fait trop peur, je vais pas la regarder.
C'est trop bien.
Non, moi non plus. Je vais juste l'ajouter aux notes du podcast et essayer de pas y toucher.
Très bien.
Bravo
pour votre courage.
Comment je vais illustrer cet épisode? Le kiff d'Anthony, le tien, celui d'Aïda, le mien, il n'y a rien qui illustrable, je suis au bout de ma vie.
Alors le photomontage, du coup, c'est ton kiff finalement. Donc ça, tu vois, tu coches ton kiff rien qu'en faisant un montage.
C'est vrai.
Après, tu peux mettre un champignon qui tient une bourse bien fermée parce qu'Anthony est radin.
Avec un drapeau de l'Algérie derrière.
Yes, one, two, three, il va à l'Algérie.
Écoutez, j'abandonne.
Sur ce,
je pense que c'est
la fin de cet épisode de Laisse-moi kiffer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci à vous deux.
C'était
et merci
bien.
À Anthony, qui n'est plus là, mais qui est toujours dans nos cœurs.
Et merci à toi, Mimi.
On dirait qu'il est mort, pas du
tout. Grave.
Qui est juste parti faire un truc, qui revient très bientôt. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Laisse-moi kiffer. On vous fait des bisous.
Des bisous.
Et prenez soin de vous. Bye bye.
Bisous.
Je n'ose pas dire la semaine prochaine. Je suis là,
on ne sait plus.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.